وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فمرحبا بكم مرة أخرى واليوم إن شاء الله تعالى مع درس الموسوعة الفقهية في أحكام التيمم إن شاء الله تعالى نتم ونختم إن شاء الله تعالى من التيمم في هذا المساء إن وفق الله عز وجل. جديد السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله تعالى سوسوار سوسوار الديرني كور سوغ لو تيمم إن شاء الله سي أون لو تون بور تيرميني أون بالي تري فيت إن شاء الله. لو تيمم إي تريز إمبورتون سي بور سا كو certains ne l'utilisent même pas. Ils savent même pas que c'est une obligation. Quand on est malade, on ne peut pas utiliser l'eau là quand il n'y a pas d'eau. Certains ont même peur de l'utiliser, tellement ils sont ignorants, ils ont peur que leur prière ne soit pas vraie, ne soit pas juste. Ils disent non, moi je préfère rester sans la prière jusqu'à demain, inchallah, il y aura l'eau et je ne fais pas la prière. Cela bien sûr, ce sont de grands ignorants. Et d'autres, et d'autres, qu'est-ce qu'ils font? Pour la moindre des choses, ils font taïmoum. La moindre des choses. Même si l'eau est seulement devant la porte, ils préfèrent ne pas sortir et faire taïmoum. Même s'il a un petit rhume dans son nez, il va directement au taïmoum. Donc, je disais que nawaqit taïmoum, ça comme révision très vite, les choses qui annulent le taïmoum, toutes les choses qui annulent l'eau. Pardon, toutes les choses qui annulent les ablutions. Toutes les choses qui annulent les ablutions annulent l'eau. Si on va aux toilettes, si on urine, s'il y a des gaz qui sortent, toutes choses qui annulent l'eau, les ablutions annulent aussi le taïmoum. Deuxièmement, si on trouve l'eau, pour quelqu'un qui a fait le taïmoum à cause qu'il n'avait pas trouvé d'eau, ensuite il a trouvé l'eau, même s'il est en plein salat, il sort. En plein salat, on lui dit, voilà l'eau est arrivée, ou là il entend le robinet, qu'est-ce qu'il fait? Il sort de la salate. Alas, pourquoi? Parce que l'eau est venue. Sauf pour celui qui a fait le taïmoum, non pas à cause de, il n'y avait pas d'eau, mais à cause d'une maladie. Celui-là, bien sûr, il n'a aucun rapport avec l'eau. Troisièmement, non, ça c'est deuxièmement. Ensuite, on avait parlé de que le taïmoum, c'était pas une condition qu'il soit Torab, la poussière. Parce que certains ulama disent qu'il faut qu'il y ait de la poussière. Le sahih, le juste, le plus vrai, inshallah ta'ala, que c'est pas une condition qu'il faut de la poussière. Toute chose qui sort de la tête, qui est de cailloux, la rocher, ou la terre, ou bien sable, ou bien poussière, toutes ces choses-là, on fait avec elles, taïmoum, soit qu'elles soient poussiéreuses ou qu'elles soient pas poussiéreuses. Comme a dit bien sûr Cheikh Ibn Othaymin, Cheikh Al-Albani et les autres, et c'est ça le plus juste, que c'est pas une condition la poussière. Ensuite on avait dit aussi, bien sûr on avait donné les délits de la fois passée, aujourd'hui on va voir quelles sont les choses qui permettent de faire le taïmoum. Premièrement, s'il ne trouve pas d'eau, il est obligé de faire le taïmoum. Allah Azza wa Jal, le début du verset, ensuite il a dit فَلَمْ تَجِدُ مَاءً فَتَيْمَمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. Donc tout le monde a dit فَلَمْ تَجِدُ مَاءً فَتَيْمَمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. Donc si vous ne trouvez pas d'eau, on doit faire le taïmoum. Et dans le hadith sahih Bukhari ou Muslim, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ رَجُلًا مُعْتَزِلًا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu quelqu'un comme ça seul, loin du groupe, seul, لم يصلي في القوم. Et il n'avait pas fait la prière avec eux. C'est dans un voyage. فقال يا فلان. Et toi, même أنا كنت أصلي في القوم. Qu'est-ce qui t'a empêché de faire la prière avec nous? قال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. قال يا رسول الله, je devais faire, j'étais en janaba. Je devais faire un lavage majeur. J'étais en la robe, mais je n'avais pas d'eau. Qala sallallahu alayhi wa sallam, le prophète a dit, alayka bis-sa'id fa innahu yakfik. Yani, et le taïmoum, ça suffit. Le taïmoum, yani, alayka bis-sa'id, yani, frappe sur la terre, etc., de la chose qui sort de la terre, yakfik, yani, à la place de l'eau. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, inna sa'id tayyib, ce qui sort de la terre, hada, et qui est tayyib pur, wadu' al-muslim. Yani, c'est le, ce sont les, c'est la même chose comme les ablutions. Ou bien même, c'est les ablutions. C'est les ablutions du musulman. Wa in lam yajid al-ma'a 10 sinin. Même s'il ne trouve pas d'eau, 10 années. 10 années, il ne trouve pas d'eau, il fait le taïmoum 10 années. Idan awalan al-ma. Et deuxièmement, ou bien ça rentre dans ne pas avoir l'eau, quand on a l'eau, on ne peut pas l'utiliser. C'est-à-dire qu'il est loin de nous, par exemple. Quand on a de l'eau dans un puits, on ne peut pas descendre au puits, c'est comme si on n'avait pas d'eau. Quand j'ai de l'eau, mais il est dans un endroit où je ne peux pas le faire sortir, c'est comme si je n'avais pas d'eau. Donc, j'avais donné l'autre fois un exemple, maintenant j'ai de l'eau dans une bassine. C'est avec cette bassine que je fais les ablutions. Maintenant, il y a par exemple un chien enragé qui est devant la bassine. Je ne peux pas donc utiliser cette eau. Donc, c'est comme si je n'avais pas d'eau et je fais le taïmoum. Ensuite, il a khashiya darar min isti'mal al-ma. La même chose, il fait le taïmoum s'il y a l'eau. Maintenant, il y a l'eau, mais il a peur de, par exemple, de la maladie. Il a peur, il est par exemple malade, et s'il va encore mettre de l'eau, ou bien, par exemple, il a une blessure. Donc, s'il va mettre de l'eau, s'il va faire des ablutions, ou bien yani, il ne va pas guérir, ou bien il va faire tarder la guérison, ou bien il va avoir mal. La Azzawajal qad, wala talqu bi anfusikum, afwan, wala talqu, afwan, wala taqtulu anfusakum, inna Allah kana bikum rahima. Wala taqtulu anfusakum, inna Allah kana bikum rahima. La Azzawajal dit, ne vous tuez pas, inna Allah kana bikum rahima. وعن جابر رضي الله تعالى عنه جابر رضي الله تعالى عنه ادي خرجنا في سفر nous sommes sortis en voyage فاصاب رجلا منا حجر il y avait un de nous qui était tombé de sa monture et il a eu يعني une blessure sur sa tête une blessure bien sûr assez grave قال فشجعوا في رأسه donc il a eu يعني presque si on peut dire un petit trou comme ça sur la tête. Ensuite lorsqu'il s'est endormi cette personne lorsqu'elle s'est endormie elle est devenue à la janaba. Ça veut dire elle avait besoin de faire quoi? Le lavage majeur, parce que elle était en état d'impureté. Il a demandé à ses compagnons, est-ce que je peux faire le taïmoum, est-ce que d'après vous j'ai la permission avec cette blessure par exemple de faire quoi? De faire le taïmoum. Ils ont dit, on ne te trouve pas de permission alors que toi tu peux utiliser l'eau. Tant que tu peux utiliser l'eau, on ne te trouve pas de permission. Donc il s'est lavé et bien sûr il est mort. Il est mort à cause de l'eau bien sûr qui est rentrée à l'intérieur de sa blessure. On a un trou dans la tête et on va maintenant, autrefois il n'y avait pas les agrafes, etc. Il n'y avait pas l'hôpital, etc. Donc l'eau va rentrer directement à l'intérieur. Donc dès qu'il s'est lavé, il a fait le roussel, il est tombé mort. فَلَمَّا قَدِمْنَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُخْبِرَ بِذَلِكَ lorsqu'on est allé au prophète صلى الله عليه وسلم et on lui a dit ce qui s'était passé, qu'est-ce qu'il a dit? قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ قَتَلُوهُ ils l'ont tué, قَتَلَهُمُ اللَّهُ c'est un dua contre eux. قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ ils l'ont tué, qu'Allah les tue. قَتَلَهُمُ dans d'autres explications ils disent c'est un doua contre eux. Qatalou, qatalamullah, dans d'autres explications, ils disent c'est un lan. Ala sa'alu idlam ya'lamu. Pourquoi n'ont-ils pas demandé lorsqu'ils ne savaient pas? Car cela ne savait pas, la preuve. Ils lui ont fait une fatwa, mais qui était fausse. Pourquoi a-t-il dit? Il a dit pourquoi ils n'ont pas demandé lorsqu'ils ne savaient pas. Fa inna ma shifa'u la'i su'al. La'i, c'est le djel, l'ignorance. Il a dit, le médicament ou la guérison de l'ignorance, c'est quoi? c'est demander et poser des questions. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé l'ignorance, l'a appelé une maladie, et a dit que sa guérison, c'est quoi? C'est de demander et de poser des questions. Ce n'est pas de faire la fatwa et de parler aux gens de choses qu'on ne connaît pas. Quand on est malade de quoi? On est malade de l'ignorance, parce que c'est une maladie. Quand on est malade, qu'est-ce qu'on fait? On veut se guérir, on achète le médicament qui est quoi? Qu'il a demandé. On demande aux ulama. Les ulama, ce sont les docteurs. Et le médicament, c'est tu poses les questions, ils te répondent, inshallah ta'ala. وعن عمر بن العاص الصحابي جليل رضي الله تعالى عنه قال احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات الثلاث. Il a dit une fois, yani on était pour la guerre sainte comme ça, et la nuit je suis devenu en état d'impureté. Janaba, la nuit je suis devenu en état d'impureté. فأشفقت إن اغتسلت وإن أهلك. Bien sûr, il faisait beaucoup froid, etc. Il a dit j'ai eu peur si, yani le matin. Il a dit, j'ai eu peur, si je vais me laver, il m'arrive quelque chose et je meurs. Tellement, il faisait froid. Il a dit, tout m'a sallaytu bi ashabi sobr. Il a dit, ensuite, j'ai guidé la prière de mes compagnons, c'est-à-dire lui, il était imam. Il a dit, j'ai fait avec eux, je les ai guidés dans la prière du matin, le sobr. Fadakaru dhalika lin nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà ce qu'a fait Amr ibn al-As, il était en janaba. Il ne s'est pas levé et il a guidé, yani il nous a guidé, il a fait la prière. Bien sûr, entre parenthèses, ça veut dire il a fait le taïmum. Entre parenthèses, il a fait le taïmum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Ya Amr, sallaita bi ashabika wa anta junub, Ya Amr, tu les as guidés dans la prière, alors que tu étais en état d'impureté, janaba. Qala Amr, fa akhbartuhu billadhi mana'ani min ikhtisal. Wa qultu inni sami'tu rasul, sami'tu Allah azza wa jalla yaqul, wa la taqtulu anfusakum, inna Allah kana bikum rahima. Amr a répondu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui m'a empêché de me laver, c'est que j'ai entendu Allah azza wa jalla dire dans le Coran, ne vous tuez pas, la taqtulu anfusakum, ne vous tuez pas, yani taqrib, ne vous suicidez pas, inna Allah kana bikum rahima. Il a dit fadhahika rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa lam yaqul shay'an. Il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a entendu cela, il a ri et n'a rien dit. Il a ri et n'a rien dit. Celui-là, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait fait le taïmoum. Pourquoi? Parce que je viens de dire, quand on sait que si on va se laver, on va rentrer dans des problèmes, on va aller à l'hôpital, etc., qu'est-ce qu'on fait? On fait le taïmoum. Et ensuite, Inch'Allah ta'ala, l'autre prière, on voit si on peut utiliser l'eau, on l'utilise. Si on ne peut pas, on fait le taïmoum juste pour la prière. Ce n'est pas pour, par exemple, toute la journée ou le mois. Non, juste chaque prière, tu vois. Peut-être la prière du dhor, je ne peux pas. Je ne peux pas utiliser l'eau. Mais flash, peut-être je peux. Donc c'est comme ça que je fais. Chaque prière, je vois. Si je peux utiliser l'eau, je suis obligé. Si je peux pas, qu'est-ce que je fais? Je laisse la prière. Je fais, j'utilise le taïmoum. C'est pour ça que deux personnes qui ont la même maladie, et il peut y avoir une différence entre elles. Cette personne peut utiliser le taïmoum, par exemple, et celle-là ne peut pas. Pourquoi? Parce que des fois, on a la même maladie, mais moi, des fois, je suis plus résistant que la deuxième personne. Je suis plus fort, je suis plus yani, comment on dit, gros, je suis plus. Donc c'est pas une question de maladie, ou là c'est ce que tu sens, toi, ce que tu sens. Certains malades peuvent et d'autres ne peuvent pas. Ensuite, chacun se connaît très bien, chacun se connaît très très bien, s'il peut ou s'il peut pas. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a dit des fois, toi tu te connais yani très bien, tu te connais mieux que les autres, tu te connais toi. Tu te poses des questions à toi-même. Tu peux ou tu peux pas. Il a dit, هل يتيمم من خاف صوت الرفقة. Maintenant, par exemple, on est en voyage, et par exemple, si je vais faire les ablutions, ou là, si je vais, par exemple, faire le rostre, j'ai une janaba. Si je vais faire le rostre, yani, mes amis vont partir. Hein, ils vont monter dans les voitures, etc., et partir. Maintenant, j'ai peur qu'ils partent. Donc, est-ce que je peux, dans ce cas, faire vite le taïmoum et faire la prière, ou là, comment je fais? Il a dit ici, سألتو Cheikh Al-Albani عليه رحمة الله عن ذلك. J'ai demandé à Cheikh Al-Albani comment qu'on fait, yani, est-ce que c'est permis à cause de si on a peur de nos amis ou la rifqa qu'ils partent, est-ce qu'on peut utiliser le taïmoum? Il a dit, إن خوف فوت الرفقة مسألة مطاطة. Il a dit, le fait d'avoir peur qu'il partait quand te laisse, etc. Il a dit c'est vague, c'est pas très clair. فربما صوت الرفقة عرب للهلاك. Des fois, il a dit, c'est pas la même chose. Il a dit, des fois, s'ils partent, on peut mourir. Non, ils partent et ils me laissent, l'autocar va partir. L'autocar, il n'attend pas toujours. Par exemple, il dit, à 2 heures, on part. Maintenant, il est 2 heures, il part. Ah, il s'en fout, lui, tu fais la prière ou là, tu fais pas. Maintenant, Cheikh Al-Albani, il dit, des fois, si cet autocar, par exemple, part et te laisse en plein désert, celui-là, il dit, celui-là, il fait le taïmoum. Parce que pourquoi? Parce que ici, s'il part et te laisse, ça devient grave pour toi, tu peux même mourir. En plein désert, il te laisse tout seul, c'est impossible à nous. Il a dit, ouais, ben, moi, des fois, le fait qu'il part tout là, ça ne fait aucun mal. Ça ne fait aucun mal. Il y a des bus tous les 5 minutes, toutes les 10 minutes, etc. Il a dit, yani, le maximum ce qui s'est passé, ils sont partis, yani, ils sont plus avec toi pour que tu parles avec eux, tu plaisantes, etc. Ça, c'est le deuxième cas. Il a dit donc, il y a des cas où il est permis le taïmoum, si vraiment tu sais, si c'est parti, te laisse seul, tu risques de mourir, etc. Là, tu fais le taïmoum et tu les joins. La râle, tu peux pas faire le rosso, etc. Ils partent et ils te laissent. Il a dit, des fois, non. Des fois, il y a certains amis où là, ils peuvent partir. Ensuite, tu peux toi les rejoindre. Dans ce cas, tu fais quoi? Tu te laves, etc. Et tu les laisses partir. ثم يتكلم عن تيمم المريض عفوا التيمم لرد السلام في الحضر أو السفر بوجود الماء. Le تيمم, le titre, le تيمم pour rendre seulement salam. Quand quelqu'un nous dit salam alaikum, on n'a pas fait les ablutions, par exemple, on est sans ablution. Il a dit ici, on fait le taïmoum pour dire wa alaykoum salam, c'est tout. An ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, sahabi Jalil radiyallahu ta'ala anhuma, a dit aqbaltu ana wa Abdullah ibn Yasar, mawla Maymuna, zawj an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, hatta dakhalna ala Abi Juhaym ibn al-Harith ibn Samal al-Ansari. Donc Abdullah ibn Abbas a dit, moi et un compagnon, on est rentré vers un autre compagnon, on l'a entendu dire. On a entendu ce compagnon dire, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل. Il a dit, j'ai vu le prophète صلى الله عليه وسلم venir d'un certain endroit, il s'appelle le puits de Jamal, c'est un endroit, je l'ai vu venir de cet endroit. فلقيه رجل فسلم عليه. Ensuite, il y a un homme qui a croisé le prophète صلى الله عليه وسلم et qui lui a dit السلام عليكم ورحمة الله. Il a dit فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. Le prophète صلى الله عليه وسلم ne lui a pas répondu. Ne lui a pas répondu. حتى أقبل على جدار, jusqu'à ce qu'il est allé vers un mur, il a essuyé, hein, il a frappé le mur avec ses mains, il a essuyé son visage, ses deux mains, les deux mains bien sûr, jusqu'au poignet, ensuite il lui a dit, wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour ça qu'il y a un hadith qui est sahih chez l'Albani, c'est la sahih numéro 406, où il dit, inni karihtu an adkur Allah illa ala tahara. Il a même dit à cette personne, il lui a pas répondu, il est allé vers un mur qui n'était pas loin, bien sûr. Il a frappé le mur avec les deux mains. Il a fait le visage, s'est essuyé le visage, les deux mains jusqu'au poignet. Il lui a dit, alaykoum salam Allah. Mais il lui a dit, il n'est karih tout. J'aime pas un adkour Allah. J'aime pas invoquer Allah Azza wa Jal, sauf si je suis pur. Ça veut dire, même quand j'ai pas des ablutions, j'aime pas invoquer Allah Azza wa Jal. Parce que salam, en fin de compte, quand tu dis salam, c'est quoi? C'est un nom des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Salam, c'est un nom des noms d'Allah. Il s'appelle Salam, le Malik, le Quddus. Ça. Donc, le mot Salam, il a dit, même le mot Salam, je ne veux pas le dire sans que je fasse les ablutions. Pardon, les ablutions, bien le taïmoum. Ici, le taïmoum, c'était le plus près, bien sûr. Donc, il a fait le taïmoum et lui a dit, wa alaykum salam, je veux dire par là que ce n'est pas, bien sûr, interdit de dire. Quand on n'a pas les ablutions ni le taïmoum. Non, ce n'est pas interdit. Mais on parle du plus parfait. Hein? Qu'est-ce qui est mieux, par exemple? Qui est-ce qui est mieux? Quand on rend. Pardon, quelqu'un qui m'écrit ici. Qu'est-ce qui est mieux, par exemple, ici? C'est quand quelqu'un nous dit salam. De lui rendre comme ça, sans ablution, sans taïmoum, ou là par exemple je prends taïmoum, vu que c'est mon jeudi alaykoum salam. C'est sûr que le deuxième c'est mieux. J'ai beaucoup plus de hajj parce que j'ai invoqué Allah Azza wa Jal en état de taïmoum. Et le premier a invoqué Allah Azza wa Jal en état de rien, yani, ni taïmoum ni ablution. Donc le deuxième est mieux, bien sûr. Ensuite, il a parlé de taïmoum al-marid. Il a parlé, on a déjà parlé de ça, que quelqu'un qui est malade, il peut faire le taïmoum, inshallah ta'ala, il peut faire le taïmoum. والذي عليه الجمهور انه لا يشترط في خوف الهلاك بل من كان الوضوء ابن تيمية عليه رحمة الله هذه يعني la plupart des علماء disent que ce n'est pas une condition de peur de mourir يعني seulement je dois mourir de peur ça je dois avoir peur si je meurs sinon j'en pourrai pas le taïmoum non ce n'est pas une condition mais il a dit بل من كان الوضوء يزيد مرضا mais si seulement tu sais que les ablutions vont agrandir ta maladie ou yu'akhir bar'ah ou bien si tu vas faire les ablutions toi tu devais guérir par exemple dans 2 ou 3 jours maintenant tu ne vas pas guérir tu vas guérir dans une semaine à cause de la maladie hadi, la blessure il ne faut pas que tu mettes de l'eau et maintenant il commence alhamdoulilah à sécher donc maintenant s'il veut mettre de l'eau au lieu que ça sèche demain ou après-demain ça va sécher dans 15 jours il a dit celui-là aussi il fait le taïmoum. Ensuite, il يتكلم عن الجنوب يتكلم عن celui qui est en état d'impureté, janaba, يعني par du taïmoum. Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, وإن كنتم مرضى, si vous êtes malade, أو على سفر, يعني en voyage, أو جاء أحد منكم من الغائط, ou vous êtes sorti par exemple des toilettes, أو لمستم النساء, vous avez fait le rapport, فلم تجدوا ماء, vous ne trouvez pas d'eau, فتيمموا صعيدا, faites le taïmoum. عن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال عليكم السلام قال جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال أن أمي بنو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلوادي إني أجنبت فلم أصب الماء je suis devenu en état d'impureté جنبا et je n'ai pas trouvé de l'eau يعني comment je dois faire فقال عمار بن ياسر il y avait un autre compagnon qui avait entendu ça s'appelle Ammar ibn Yasir il a dit à Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala parce que Omar ibn Khattab dans un autre hadith avait répondu à celui-là qu'il ne pouvait pas faire il ne pouvait pas yani, faire le taïmoum il devait yani, attendre jusqu'à ce que l'eau vienne Ammar ibn Yasir va lui faire souvenir à Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala qu'est-ce qu'il lui a dit Ama tadkur anna kunna fi safar ana wa ant il lui a dit as-tu oublié Omar ibn Khattab as-tu oublié que on était en voyage toi et moi et toi tu n'as pas fait la prière parce que tu étais yani on était les deux janaba toi tu n'as pas fait la prière alors que moi qu'est-ce que j'ai fait yani je me suis couché par terre et il a commencé à yani, s'enrouler comme ça dans la poussière parce que Ammar ibn Yasir radiyallahu ta'ala anhu a cru quoi a cru que le taïmoum yani, on ne fait pas seulement le visage et les mains on doit faire exactement où doit passer l'eau et puisqu'il était en janaba la vache majeure donc l'eau doit toucher tout le corps et puisqu'il n'y a pas l'eau donc la poussière la terre doit toucher tout le corps. Donc il s'est allongé donc, comme ça par terre, il a dormi par terre, et il a commencé à rouler à droite, à gauche, sur ses cheveux, sur ses pieds, pour mettre yani, de la terre partout. Radiallahu ta'ala anhu. Ensuite il lui a dit, il dit toujours à Omar al-Khattab, tu te souviens, on était les deux janaba, toi tu n'as pas fait la prière, même tout salé, tu as dit jusqu'à ce que je trouve l'eau, et moi je me suis roulé comme ça, dans la terre et la poussière. Il lui a dit ensuite, j'ai dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam voilà ce que j'ai fait, je me suis roulé sur la terre etc. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit kana yakfik hakada ça t'aurait suffi cela ensuite le prophète alayhi wa sallam il a frappé la terre avec ses deux mains, avec les paumes wa nafakha ensuite il a soufflé comme ça sur ses mains à cause que la poussière parte des mains ensuite masaha il a essuyé son visage et ses deux mains donc parce qu'il y a certains qui croient que le taïmoum, on doit mettre la poussière exactement où on doit mettre l'eau. Ça veut dire on doit mettre la poussière jusqu'au coude, etc. pardon, la terre, jusqu'au coude, et on doit mettre sur le visage les cheveux, les pieds. Bien sûr, on a dit que le vrai, le juste, c'était juste le visage et les mains jusqu'au poignet, c'est tout. Les mains jusqu'au poignet, c'est tout. Ensuite, il a dit ici, هل التيمم ضربة أو ضربتين؟ Bien sûr, je suis en train de, à chaque fois, je suis en train de sauter. Je saute beaucoup de choses. Je vous dis seulement, je vous donne le plus juste, sans rentrer trop dans les détails. Sans rentrer trop dans les détails. Pour que vous vous souveniez, et vous n'oubliez pas, je vous donne seulement le plus juste avec son dadil. Bien sûr, parce qu'il y a ici des débats, l'arjah, etc. Moi, je vous donne le plus juste, comme ça, très résumé, très brièvement. Il a dit taïmoum, darba ou darbatan. Est-ce que le taïmoum, on frappe une fois ou on frappe deux fois? Résumé, on frappe seulement une fois. Et tous les hadiths où il est dit on frappe deux fois sont des hadiths qui sont douteux ou faibles. Sont douteux ou faibles. Mais le vrai hadith, c'est celui dont je viens de citer, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ammar ibn Yasir, et c'est un hadith bien sûr dans Bukhari ou Muslim, il lui a dit, ça te suffit que tu frappes comme ça. Il a frappé la terre avec les deux paumes, il s'est essuyé le visage et les mains jusqu'au poignet. Une seule fois. On ne frappe pas deux fois, car certains frappent deux fois, la première pour le visage, la deuxième pour les mains. Et on a d'autres qui frappent trois fois. J'ai lu ça dans le cercle. Certains frappent trois fois. La première fois pour le visage, la deuxième pour les mains jusqu'au poignet, et la troisième pour les mains jusqu'au coude. Et il y a les khawarij qui disent que le taïmoum, tu frappes jusqu'au coude, mais jusqu'aux aisselles. Tu fais monter jusqu'aux aisselles. Et bien sûr, tout cela, inshallah ta'ala, c'est une bid'a et une innovation. Donc le taïmoum, on frappe une seule fois et seulement le visage et les poignets. Ensuite, il a dit, هل taïmoum yaqoum maqam al-ma? Naam. Est-ce que le taïmoum, il est à la place de l'eau à 100%? On dit naam. Le taïmoum est à la place de l'eau à 100%. Ça veut dire que quand on fait le taïmoum, c'est comme si on avait fait des ablutions ou bien on avait fait le roust. Il n'y a pas de différence. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit As-sa'id al-tayyib tahour al-muslim wa law lam yajid al-ma 10 sinin. Ça, ce hadith, on l'a dit. Naam. Ensuite, وقال الشيخ الألباني على رحمة الله كل أحكام التيمم تنسحب على أحكام الوضوء. Tout ce qui a rapport avec le taïmoum, il a rapport avec l'eau. C'est la même chose. Yani, tout ce qui annule, par exemple, les ablutions, il annule le taïmoum. Et tout ce que tu peux faire avec les ablutions, tu peux faire avec le taïmoum. C'est pour ça qu'on a dit que quand quelqu'un fait le taïmoum, par exemple, pour Salat al-Dhuhr, il peut faire taïmoum pour Salat al-Dhuhr. En même temps, il peut faire les quatre avant le taïmoum, avant le dhuhr, pardon, il les fait avec ce même taïmoum. Ensuite, il fait dhuhr, ensuite il fait deux rak'at avec le même taïmoum, sans renouveler le taïmoum. Ensuite, s'il ne va pas aux toilettes, il n'y a pas de gaz qui sort, il ne dort pas, il fait le asr aussi, et il fait le maghrib, et il fait le isha. Tout ça avec le taïmoum qu'il a fait au dhuhr. Pourquoi? Parce que le taïmoum, c'est à 100% comme les ablutions. C'est à 100%. Sauf si, comme j'ai dit, on va aux toilettes où il y a des gaz qui sortent, où là on mange le chameau, etc. On a montré une fois quelles sont les choses qui annulent l'eau, les ablutions. Ces mêmes choses annulent le taïmoum. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'il y a des gens qui ont peur des fois. Ils disent, oh là, j'ai des doutes sur le taïmoum, etc. Tu as des doutes, c'est que tu as alors des doutes sur le Coran. Car le Coran, c'est le Coran qui a dit que si vous ne trouvez pas d'eau, allez au taïmoum. Ensuite, Mas'ala ici. Naam. Est-ce que quelqu'un qui a fait le taïmoum, et il y a un autre, ou il y a un groupe par exemple, ils sont 10. Un a fait le taïmoum, et 9 ont fait les ablutions. Est-ce que celui-là qui a fait le taïmoum, il peut guider la prière, peut guider les autres, lui avec le taïmoum, et les 9 autres avec les ablutions? Oui, il peut. Il peut, et il n'y a pas de différence entre lui et les autres. Pourquoi? Parce que pour lui, le taïmoum remplace l'eau, remplace les ablutions. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes qui disent non, je préfère en avant celui-là, il a fait les ablutions, Non, dit, c'est pas vrai. La règle dit, men sahat salatu li nafsih, sahat li ghayrih. Quiconque, si sa salat, sa prière est vraie pour lui, donc elle est vraie pour les autres. Si moi, quand je fais ma prière, elle est juste. Donc, si je guide les gens, elle est aussi juste. Car, ou bien elle n'est pas valable pour moi, elle ne sera pas valable pour les autres. Maintenant, si elle est valable pour moi, elle est valable pour les autres. La même chose. Men sahat salatu li nafsih, sahat salatu li ghayrih. Donc il n'y a pas de différence. C'est pour ça que quand on est en groupe par exemple, il y a quelqu'un qui a fait le taïmoum, et bien sûr avec des raisons valables, je parle de celui qui fait le taïmoum pour des raisons valables, et on est 100, on a fait les ablutions. Maintenant si lui il a les conditions de celui qui guide la prière, qu'il nous guide, par exemple s'il connaît mieux que nous le Coran, connaît mieux que nous la Sunna, c'est un savant, c'est lui qui fait la prière, c'est lui qui l'a fait inchallah, même avec le taïmoum. Pourquoi? Parce que le taïmoum pour lui, le témoin pour lui, c'est comme s'il avait fait des ablutions, la même chose. Autre chose, quand quelqu'un fait, par exemple, le témoin, il a fait le témoin, par exemple, et il a fait la prière. Maintenant, j'ai fait la prière avec le témoin, pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'eau. Maintenant, j'ai terminé la prière, je m'assois sur une chaise, et voilà que le robinet commence à couler, l'eau est venue. Est-ce que je vais refaire la prière parce que l'eau est venue, ou bien je me suis dit, ça y est, on a trouvé de l'eau? Je préfère vous répondre par ce qu'il y a dans ce hadith. An Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu, compagnon, grand compagnon radiyallahu ta'ala anhu, il a dit, kharaja rajulan fi safar. Deux hommes, deux compagnons sont sortis en voyage. Ensuite, l'heure de la prière est venue et ils n'avaient pas d'eau. Ils étaient en voyage, ils n'avaient pas d'eau. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bien sûr, ils ont fait le taïmoum, ils ont fait la prière. Ils n'ont pas dit, ce soir je vais arriver à la maison, je vais faire la prière, comme disent les ignorants. Laisse ce soir. Inch'Allah, demain je vais faire la prière, aujourd'hui il n'y a pas d'eau, je suis en voyage. Non, il n'y a pas d'eau en voyage, je fais le taïmoum. Donc ils ont fait le taïmoum, ils ont fait leur prière. Thumma wajada al-ma'a fi al-waqt. Ensuite, ils ont trouvé de l'eau. Lorsqu'ils ont terminé le taïmoum, par exemple, ils ont marché 10 ou 20 mètres, par exemple, ils ont trouvé un puits plein d'eau, ou là, un lac plein d'eau. Masha'Allah. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Fa'a'ada ahaduhuma as-salat wal-wudu. L'un des deux, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait encore une fois les ablutions et il a refait sa prière. Il a dit, moi, alhamdoulillah, maintenant il y a l'eau, et l'heure de la prière n'est pas rentrée, il reste encore 2 heures ou la 3 heures, moi je fais les ablutions, je refais ma prière. Et le deuxième n'a refait ni les ablutions ni la prière, le deuxième. Ensuite ils sont partis au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui ont dit ce qui s'était passé. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit asabta sunna, il a dit à celui qui n'avait pas répété ni les ablutions ni la prière, il lui a dit asabta sunna wa ajza'atka salatuk, et ta prière est valable et juste. Et il a dit à celui qui a fait encore une fois les ablutions et il a fait quoi? Et il a refait la salat, lakal ajr marratain, tu as deux fois l'ajr, tu as deux fois les hasanat, tu as deux fois la récompense. Regardez maintenant bien, écoutez bien ce qu'on peut tirer de là. Premièrement, on tire que quand on est en voyage et il n'y a pas d'eau, on va directement au taïmoum. On dit pas, on laisse la salat jusqu'à demain ou là jusqu'à la nuit. Impossible qu'on la fasse sortir de l'heure. Il est impossible de faire sortir une salat de l'heure. Comme ça, exprès, on la laisse sortir. On va au taïmoum, et alhamdulillah, on l'a fait avec le taïmoum, elle est valable à 100%. Deuxièmement, on tire profit de cette histoire que, regardez, l'un des deux a dit quoi? Après avoir trouvé l'eau, l'un des deux a dit, moi je refais les ablutions et je refais ma salat. Et l'autre a dit, non, moi je me suffis, alhamdoulilah, j'avais pas d'eau, j'ai fait la prière, maintenant j'ai trouvé l'eau, c'est trop tard, je l'ai trouvé après avoir fait la prière, moi je la refais pas. Ici, qu'est-ce qu'on tire profit? On tire profit que, regardez, ils ne se sont pas bagarrés et ils ne se sont pas donné des coups de poing, ils ne se sont pas dit pourquoi moi je refais la prière et toi tu refais pas. espèce de pervers. Toi, tu n'as pas peur d'Allah. Toi, tu es un djahel et peut-être tu es un kafir. L'eau est venue et tu ne veux pas refaire la prière. Il l'a laissé. Il a dit non. Moi, mes dalils, je suis convaincu que je ne refais pas la prière. Il ne lui a pas dit pourquoi. Et l'autre, le deuxième, n'a pas dit aussi à l'autre pourquoi toi, tu vas faire encore une fois la prière, espèce d'innovateur. Espèce d'innovateur, pourquoi tu vas refaire? Il ne lui a pas dit. Il sait-tu pourquoi? C'est une question de dalil. Moi, j'ai mes dalils. Toi, tu as tes dalils. Moi, je n'ai pas tiré ça de ma tête. C'est pour ça, quand ils sont allés chez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à celui qui a fait les ablutions et la prière, une deuxième fois, il lui a dit, tu as le hajr deux fois. Tu as deux récompenses. Et il a dit à l'autre, celui qui n'a rien fait, ni les ablutions, ni la prière, il lui a dit, tu as asabta sunnah, yani, tu as fait comme la sunnah. Tu as fait vraiment comme je fais moi. C'est la sunnah, asabta sunnah, et ta salat est vraie. Et bien sûr, maintenant, quel est le plus vrai de ces deux? Le plus vrai, inshallah ta'ala, c'est celui qui n'a refait ni les ablutions ni la salat. Celui-là, c'est le plus vrai. Vous savez pourquoi? Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, accepte la sunnah. Tu as fait la sunnah. Quand il lui dit, tu as fait la sunnah, c'est comme s'il avait voulu dire à l'autre, toi, tu n'as pas fait la sunnah. Non. Il a dit à celui-là, asabta sunnah, ça veut dire que l'autre, il n'a pas eu la sunnah, il ne l'a pas faite. C'est un modif, ça veut dire en arabe, asabta, ça veut dire que toi, tu t'es éloigné de la sunnah. Mais celui-là, il lui a dit, asabta sunnah. Maintenant, si quelqu'un va dire, mais subhanallah, il a dit à l'autre, tu as deux fois les récompenses. On lui dit, bien sûr, il a deux fois les récompenses. Pourquoi? À cause de la fatigue. Parce qu'il a fait la première, la salat une fois. Ensuite, il a refait les ablutions, il a refait la prière. À cause d'avoir refait, Allah Azza wa Jal, inna Allah la yudhi' ajr al-muhsinin. Allah Azza wa Jal lui a donné un ajr parce qu'il s'est fatigué une deuxième fois. Mais, quand il lui a dit, lequel ajr maratain, tu as deux récompenses. Ça ne veut pas dire que l'autre n'en a pas deux. L'autre, peut-être qu'il en a mille. Pourquoi? Parce que l'autre, il a fait juste. Il a fait la sunnah. Allez. L'autre lui a dit, toi tu as deux récompenses. Ça veut dire l'autre qui a fait la sunnah, la vraie, celui-là peut-être il a 1000 ou 2000 récompenses. Toi tu en as deux seulement. Et la deuxième, l'argent tu l'as donné parce que tu t'es fatigué. Tu as refait les ablutions, tu as refait la prière. Donc, le juste, quand on fait une salat, et on l'a fait avec le taïmoum par exemple, ensuite on a terminé avec cette condition, on en termine, on dit salamu alaykum wa rahmatullah. Même si on dit une fois, ça suffit. Ensuite, il y a l'eau qui vient, khalas, c'est pas la peine de refaire la salat. Alhamdulillah. Moi, quand je l'ai faite, alhamdulillah, il n'y avait pas d'eau. J'ai pas triché. J'ai pas vu l'eau, j'ai dit, je fais semblant de ne pas voir pour faire le taïmoum. Non, là, je sais ce qu'il y a dans mon cœur. Il n'y avait pas d'eau qui existait dans ma maison quand j'ai fait la prière. C'est pour ça que j'ai dit, mais si tu es en pleine prière et il y a l'eau, tu dois sortir ta prière. Si juste avant de dire salam alaykum, tu fais le tashahhud, اللهم صل على محمد وعلى محمد شواري بالافا اللهم اني اعوذك من عذاب جهنم من عذاب القبر في تتمحي الممات في تتمسيح الدجال tu veux dire salam alaykum il y a l'eau qui vient خلاص ta salat est annulée tu vas faire les ablutions mais si tu dis salam alaykum tu es sorti de ta salat alhamdulillah c'est pas la peine de refaire les ablutions mais tu fais les ablutions pour la prochaine salat qui va venir inshallah ta'ala ensuite il reste seulement 20 minutes Non, il a dit, maintenant j'ai pas d'eau. J'ai pas d'eau et il y a quelqu'un qui vend de l'eau. Est-ce que je suis obligé d'acheter de l'eau ou je fais le taïmoum? Tu es obligé d'acheter de l'eau. Non, même s'il se vend, tu es obligé d'acheter de l'eau. Sauf que Cheikh Berotimi a dit ici quelque chose de spécial, il a dit, sauf si celui qui va te vendre, il va te dire, il a dit que si c'était moi, tu n'aurais pas fait la salat, etc. Il a dit, dans ce cas, tu fais le taïmoum. Mais nous, on parle en général. Il y a quelqu'un qui vend de l'eau, et j'ai de l'argent pour acheter de l'eau, je dois acheter de l'eau, et non pas aller au taïmoum. Cheikh Al-Albani, quand on lui a posé cette question, il a dit, « Min sha'ni shakhs, en yibzoul al-mal fil omur dunyawiyya, fahada awla. » Il a dit, les personnes, en général, elles dépensent de l'argent pour les choses de ce bas monde. Alors, comment ne pas dépenser de l'eau pour le tayammum, pour faire la salade qui plaît à Allah, etc. Nous, on dépense de l'argent pour acheter le pain, le lait, la limonade. Pourquoi maintenant je ne vais pas dépenser de l'argent pour acheter de l'eau pour faire quoi? Pour faire la prière. C'est comme ça qu'a dit Cheikh Al-Albani, alayhi rahmatullah. Ensuite, il y a une autre règle dans le tayammum. Maintenant, j'ai de l'eau, mais qui n'est pas suffisant. J'ai de l'eau seulement pour faire le manger. Est-ce que maintenant cette eau, je vais faire avec elle les ablutions, ou bien je vais la laisser pour le manger et je vais faire le tayammum? Comment qu'on fait? Cette eau, on la laisse pour le manger, qui est très important. Et ensuite quoi? Et on fait le tayammum. Pourquoi? Parce que le manger est plus important que utiliser l'eau pour les ablutions. Vous savez pourquoi? C'est un hadith dans le Bukhari. C'est un hadith dans le Bukhari où le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec qui? Était avec beaucoup de compagnons. Ils n'ont pas trouvé d'eau. Ils ont fait bien sûr avec le tayammum. Ensuite, ils ont trouvé une mécréante, une mouchrika. Elle leur a montré où se trouvait l'eau. Elle leur a donné beaucoup d'eau. Qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a commencé à donner l'eau aux gens il a commencé à donner l'eau aux gens, aux compagnons, pour boire. Ils ont commencé d'abord pour boire. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Le hadith est dans le Bukhari. Ensuite, il a donné aux animaux. Il a donné aux chevaux qu'il y avait avec eux. Il a donné aux Il a donné donc aux chevaux, il a donné aux moutons, il a donné à tous les animaux qu'ils avaient avec eux. Il a donné aussi aux chameaux. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Voilà ce qui a rapport avec le daf. Ensuite, il a donné à quelqu'un qui était en janaba, et qui n'avait pas fait quoi? Qui n'avait pas fait la prière parce qu'il était en janaba. Ensuite, celui-là, il lui a donné un bidon et il lui a dit, va le verser sur ta tête. Ici, Ibn Hajr al-Asqalani, dans Fath al-Bari, lorsqu'il a expliqué ce hadith du Bukhari, il a dit, on tire mille profits de ce hadith. Entre autres, on tire que on commence avec l'eau, on commence à l'utiliser chez l'humain pour boire et manger, et même les animaux. Ensuite, en dernier lieu, on la donne pour les ablutions. Non, tu vas pas toi faire des ablutions avec de l'eau et tu vas laisser un animal devant toi qui va mourir. Un animal, ça fait 2 ou 3 jours qu'il n'a pas bu, au lieu que tu lui donnes à boire avec cette eau, tu dis non, moi je suis avare, moi je vais faire des ablutions. Et je m'en fous de cet animal. Non, tu commences par l'animal qui va mourir, tu lui donnes à boire, ensuite s'il reste un peu d'eau, s'il reste pas, tu fais le tayammum. Ensuite, il a dit, maintenant, il n'y a pas d'eau. Quelle est la distance que je dois faire pour trouver de l'eau? Quelle est la distance? Là, les ulama ont beaucoup divergé. J'ai même lu quelques-uns qui disent que c'est bid'a d'aller chercher loin. Donc qu'est-ce qu'on fait? On cherche dans les alentours. Cheikh Al-Albani a dit qabl istita'a wa adam khuruj al-waqt fi al-bahth. Il a dit je ne vais pas chercher de l'eau jusqu'à ce que l'heure, le moment de la prière va sortir. Je ne vais pas marcher moi 15 km à pied pour la prendre ma voiture et tourner toute la ville chercher de l'eau. Je cherche dans les environs les plus près. Je sors devant la porte, peut-être un voisin a l'habitude de me donner, mais si le voisin ne me parle pas, ou ne m'aime pas, ou ne me donne pas, c'est pas la peine de lui demander, bien sûr. Si je trouve pas, je vais au tayammum. Donc, je cherche, il a dit, dans les alentours. Il a dit, on va pas aller des kilomètres à cause de, pour chercher l'eau. Mais on cherche dans les alentours, ici, à droite, à gauche, en haut, premier étage, en bas. S'il n'y a pas, on va directement au tayammum. Sauf si, comme j'ai dit, ce sont des personnes, des voisins avec lesquels, par exemple, on ne parle pas, ou ce sont des koufars qui n'aiment pas, ou là, ça, bien sûr, je vais directement au tayammum. Ensuite, il a dit, dans une autre règle qui a rapport au tayammum, maintenant, il n'a trouvé ni tayammum ni eau. Je suis dans un endroit où il n'y a ni tayammum, il n'y a pas de tayammum, il n'y a pas d'eau. Comment vais-je faire? Certains vont citer, ils vont dire, comment il n'y a pas de tayammum, alors que par exemple, moi j'ai dit la fois passée, que Cheikh Al-Albani a dit, par exemple, Ahmadullah, que tu peux frapper contre le mur et faire le tayammum. Maintenant, comment? Où suis-je pour qu'il n'y ait plus, il n'y a pas de mur, il n'y a pas de terre, il n'y a pas... Comment ça? Ils ont dit, par exemple, imaginez que quelqu'un a été crucifié. On l'a mis dans une croix. On l'a attaché contre une croix. Hein, le bras droit à droite, l'autre bras à gauche, les pieds comme ça ouverts, et on l'a attaché. Maintenant, celui-là, est-ce qu'il peut faire le tayammum? Il ne peut pas. Ensuite, il a été crucifié contre la planche. C'est même pas un caillou ou un rocher. Hatta, il peut peut-être toucher avec ses mains. Comment celui-là il fait? Donc, quand quelqu'un ne trouve pas d'eau et ne trouve pas où faire le tayammum, qu'est-ce qu'il fait? Il est entre deux choses. Ou bien il ne fait pas la prière, ou bien il l'a fait sans eau et sans tayammum. Et quel est le plus vrai? Il l'a fait sans eau et sans tayammum. Car Allah Azza wa Jalla dit, Fattakullah mastata'tum. Et dans l'histoire du Bukhari que j'ai cité une fois, où Asma radiallahu ta'ala avait prêté à Aïcha, lui avait prêté la chaîne, et elle s'était perdue, ils l'ont cherchée, etc. Bah, ils n'avaient pas trouvé d'eau, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait la prière. C'est pour ça que le Bukhari, alayhmatullah, il a un chapitre comme ça, Bab, où c'est écrit, Bab, idha lam yajid ma'an wala turaban. Chapitre, s'il ne trouve ni eau, ni turab, ni terre pour faire le tayammum. Qu'est-ce qu'il fait? Et il montre là-bas qu'on fait la prière sans eau et sans tayammum. Et même des fois, il y a l'eau, il y a le tayammum, mais je ne peux pas les utiliser. Je suis malade, je ne peux pas utiliser, je ne peux pas bouger ma main, je suis paralysé. Quelqu'un qui est paralysé, qui dort à plat ventre, comment qu'il va faire celui-là? Il peut se lever pour faire les ablutions? Impossible. Il peut bouger sa main pour faire le tayammum? Impossible. Qu'est-ce qu'il fait alors? Il ne fait pas la prière. Il l'a fait seulement avec sa tête. Il bouge seulement sa tête un peu. Certains ont dit ses yeux. Certains ont dit il bouge seulement ses yeux. Mais sauf la prière, il ne la laisse pas passer. Personne n'a le droit de dire je ne fais pas la prière parce que je n'ai pas trouvé telle ou telle chose. Impossible, ce n'est pas vrai. Tu n'as pas trouvé l'eau, tu vas au tayammum. Tu n'as pas trouvé le tayammum, tu fais sans eau, sans tayammum. Tu ne connais pas la qibla, tu fais sans qibla. Tu essayes de voir, il n'y a pas la qibla, je fais sans qibla. Je prends une direction, je fais. Tu as de la souillure sur tes vêtements, tu ne peux pas laver tes vêtements, ni les enlever et les changer. Tu fais la prière avec la souillure sur tes vêtements. Et ainsi de suite. Sauf la prière, tu n'as pas, personne au monde n'a une cause. Il dit, moi je ne peux pas faire la prière. Sauf qui, bien sûr, celui qui dort, ou qui est devenu fou, il n'a plus son mokh avec lui, ou bien il s'est évanoui par exemple. C'est dans tous les cas, il n'a plus sa tête avec lui. Il s'est évanoui, il s'est endormi, il est devenu fou. Celui-là, il ne peut pas faire la prière. Et tous les autres, ils doivent la faire à l'heure d'après les choses qu'ils peuvent. C'est-à-dire, tu peux debout, tu ne peux pas debout, assis, tu ne peux pas assis, allongé. Tu peux avec l'eau, tu peux pas avec l'eau avec tayammum, tu peux avec tayammum, sans eau, sans tayammum. Tu peux avec la qibla, il n'y a pas de qibla, sans qibla. Tu as la najasa, tu l'enlèves, tu peux pas avec la najasa. Et tu ne dis pas seulement, laisse demain ou laisse ce soir, je vais faire la prière. Moi je voyais certains gens ici à l'hôpital, je lui dis combien ça fait tant que tu n'as pas fait la prière? Il me dit depuis que je suis rentré à l'hôpital, 15 jours j'ai pas fait la prière. Pourquoi? Là, j'ai mes vêtements ils ont de la souillure, tu sais, ici à l'hôpital, il n'y a pas comment changer, etc. Et puis, je connais pas la qibla, et puis, des raisons comme ça, froides, yani, qui sont pas acceptées, bien sûr. Mais plus, Sanjahel, Allah Azza wa Jal, lui, il sait s'il va lui pardonner ou pas. Bon, je disais que, maintenant, il y a autre chose. Maintenant, si quelqu'un, voilà, il y a deux choses avec lesquelles on termine. Non, il reste deux choses, Inch'Allah Ta'ala. Non, il reste 10 minutes, Alhamdoulilah. Quelqu'un, comment je vais dire? Si quelqu'un, c'est quoi le titre là? Non, maintenant, par exemple, je donne des exemples, je sais que vous comprenez avec les exemples, vous comprenez mieux. Je donne des exemples. Quelqu'un, par exemple, ou supposons par exemple que Salat al-Dhuhr, c'est à 1h de l'après-midi. Salat al-Dhuhr, c'est à 13h. Elle commence à 13h, je donne seulement un exemple. Elle commence à 13h, elle se termine à 15h. Voilà l'exemple que je donne. Elle commence à 13h, elle se termine à 15h. Maintenant, j'ai combien? J'ai 2h devant moi. Maintenant, il reste 2 minutes Et ça va être 15 heures et j'ai pas fait la prière. Il reste combien? Il reste 2 minutes. Il est 2h58. Il est 14h58. À 15h, si il va faire l'adhan, le asr. J'ai pas encore fait le bar. Est-ce que cela est une raison pour faire le taïmoum afin que je fasse ma salat? Au moins la première raka, je la fais dans l'heure. Car le prophète Ali a dit, comme vous connaissez le hadith, quiconque a fait une raka dans l'heure, il a fait la salat dans l'heure. Donc ici, est-ce que maintenant je vais faire le taïmoum à cause de, si je le fais pas, la prière va sortir de l'heure, ou bien yani, je ne fais pas le taïmoum et je fais mes ablutions quitte à ce que ma salat ne soit pas à l'heure? Cheikh Al-Albani a dit, Choukani aussi, alayhim rahmatullah, et c'est ça le plus juste. Ils ont dit ça se divise en deux cas. Essayez de bien comprendre, barakallahu fikoum, car ça nous arrive tous, ça nous arrive, on trouve que c'est la dernière minute, qu'est-ce qu'on fait? Il a dit ça se divise en deux cas. Le premier cas, c'est quelqu'un qui par exemple avait une raison valable. C'est quoi la raison valable? Par exemple, c'était endormi. Quelqu'un s'est endormi. Il s'est réveillé, il a trouvé que quoi? Il a trouvé que ça reste par exemple 2 minutes et c'est l'asr. Classe, il reste seulement 2 minutes. Comment qu'il va faire? Celui-là, il se lève et il fait ses ablutions. Il ne fait pas le taïmoum. Pourquoi? Parce que comme vous savez, celui-là, il est pardonné. Celui-là, c'est pas un fautif, il n'a fait aucune faute. Moi, je me suis endormi. Quand on s'endorme, nos âmes sortent de nous, vont chez Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui rend les âmes, il ne les rend pas. Donc moi ici, si je me réveille, il reste 1 minute, je dis pas je vais faire le taïmoum à cause qu'il n'y a pas de temps. Non, je dis je suis excusé, alhamdoulilah. Moi, je me suis endormi, je savais pas, j'ai fait le réveil, je l'ai pas entendu, etc. Celui-là, il a une cause. Donc celui-là, il fait pas le taïmoum. Et le deuxième, celui qui n'a aucune cause. Il reste là, en train de jouer, plaisanter, jouer aux cartes et regarder la télévision. Ensuite, il dit, oh, qu'est-ce que c'est que ça? Il reste seulement 2 minutes. Comment vais-je faire? Parce que je vais faire le taïmoum. Celui-là, on lui dit, non, tu ne fais pas le taïmoum. Pourquoi? Parce que l'Azzawajal, quand il a cité le taïmoum, il n'a pas cité pour, à cause, on a peur de sortir de l'heure. Il a cité à cause de, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de maladie. Et maintenant, le retard que tu as fait maintenant, c'est de ta faute, et c'est toi, Yom Al-Qiyama, tu vas voir ce que tu vas dire à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce n'est pas une raison pour que tu fasses le taïmoum. Tu vas faire les ablutions comme Allah Azzawajal a dit, et pour ton retard, c'est entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas être resté en train de jouer et de plaisanter au lieu de faire la prière. Donc dans les deux cas quoi? Dans les deux cas, il ne fait pas le taïmoum. C'est comme si, par exemple, quand quelqu'un se lève le matin, il est janaba. Il va se dire, maintenant il reste 5 minutes, le soleil va se lever. Si le soleil se lève, ça veut dire que la prière est sortie, bien sûr, la prière du matin, khlas, elle est sortie de son heure. Il ne faut pas que le soleil se lève. Et il va se dire, donc, maintenant si je vais me laver pour la janaba, le soleil va se lever. Donc je vais faire vite, je vais faire le taïmoum. Comme ça, inshallah ta'ala, je ferai la salat à l'heure. Celui-là, on lui dit, tu t'es trompé. Il n'y a aucun verset ni hadith qui dit que on peut faire le taïmoum à cause de si on a peur de l'heure qui sort, l'heure de la salat. Le taïmoum est descendu pour le malade et pour celui qui ne trouve pas l'eau. C'est pas pour l'heure. Pour l'heure, toi, maintenant, si tu t'es endormi la nuit, tu as mis le réveil, etc., tu l'as pas entendu, tu t'es réveillé, alhamdoulilah, tu n'es pas fautif. Tu vas faire le refl, tu vas te laver, quitte à faire ta salat avec le soleil, mais elle comptera chez Allah subhanahu wa ta'ala, elle comptera à l'heure. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait exprès. Tu t'es endormi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, laysa fi an-nawmi tafriq. Il a dit, quand on dort, on n'est pas fautif. Quand on dort, on n'a pas notre tête avec nous, c'est la ghalb. Sauf celui qui quoi? Celui qui fait des veillées jusqu'à 3h du matin, en train de voir la télé, etc. Celui qui va dormir ne peut pas se réveiller. Celui-là, il a fait un ithm. Celui-là, il a fait un péché. Pourquoi? Parce qu'il a trop veillé, premièrement, et deuxièmement, peut-être qu'il n'a même pas mis le réveil devant lui. Au point où, Cheikh Ben Baz, alayhi rahmatullah, a fait une fatwa. Allah, si vous l'entendez, elle est très grave cette fatwa. Si vous l'entendez, vous allez vous étonner ce qu'a dit Cheikh Ben Baz. Je suis sûr, Inch'Allah ta'ala, que vous la connaissez. Et seulement pour Bakir, fa'inna dhikra tanfa'u al-mu'minin. Vous savez ce qu'a dit Cheikh Ben Baz, là, il a dit, quand quelqu'un la nuit, avant de dormir, il prend son réveil et il le règle. Par exemple, il le règle pour que demain, pour que par exemple, il va aller au travail. Par exemple, moi je travaille, supposons, je travaille à 8h du matin. Et le fajr, la salat, la prière du matin, c'est à 4h du matin. Donc à 4h, c'est la prière, et à 8h, c'est le travail. Et je commence à régler le réveil, je commence à faire tourner l'aiguille, hein, minuit, 1h, 2h, 3h, et je dépasse 4h, qui est l'heure de la prière, et je mets 5, 6, 7, et je le mets sur 8. Il a dit, faqad kafara. Il a dit, il est devenu kafir. Et d'autres m'ont dit, il a dit, il est devenu mushrik. Je ne sais pas exactement quel est le plus sûr. Mais je suis quasiment sûr qu'il a dit l'une des deux choses. Il a dit ou bien il est devenu kafir ou bien il est devenu mushrik. L'une des deux choses. Mais l'une des deux est vraie et véridique et à 1000%. Pourquoi ? Parce que c'est du shirk. Oui, c'est du shirk. Tu laisses la prière, tu la dépasses comme ça avec l'horloge, tu fais tourner l'horloge pour régler pour le travail. Donc le travail chez toi est plus important que rencontrer Allah. Rencontrer ton responsable et ton travail pour faire rentrer, je ne sais pas, 1000 euros ou là, je ne sais pas combien, c'est plus important que de faire la salat de sobh. Cheikh Ben Baz a dit en ce sens, il est devenu kafir ou bien il est devenu mushrik, celui qui fait cela. Attention, c'est très grave, hein, celui qui joue avec le réveil, joue avec la salat. Il dit, moi je m'en fous, hein, je me réveille, je ne me réveille pas. Non, il faut que tu dises, j'essaie de me réveiller. Ensuite, si tu ne te réveilles pas, Allah râle. Toi, si la nuit, avant de dormir, la nuit, tu dis, Inch'Allah, je vais mettre le réveil pour me réveiller à la prière, du matin à 4h du matin. Ensuite, tu mets le réveil et tu ne l'entends pas. Et tu te réveilles à 2h de l'après-midi, Alhamdoulilah, tu n'as rien fait devant Allah subhanahu wa ta'ala. Aucune faute tu n'as fait. Aucune faute. Pourquoi ? C'est pas toi qui. Ce n'est pas ta faute, c'est pas toi qui te réveilles. C'est Allah Azza wa Jalla qui te rend l'âme. Il ne te l'a pas rendu, Alhamdoulilah, c'est pas de ma faute. À 2h de l'après-midi, tu fais la salat du sobh. Et elle est en son heure et elle est valable à 100% pour celui qui a fait ses efforts pour se lever. Il a mis le réveil. Mais celui qui dort comme ça, il dit, moi je m'en fous. Si je me réveille, je me réveille. Je me réveille pas. La râle, c'est pas de ma faute. Il ne cherche ni réveil, ni veut acheter un réveil, ni demande à quelqu'un de le réveiller, ni demande à quelqu'un de lui téléphoner. Il dit, moi je m'en fous. Moi je dors. Si je me réveille, sinon, la râle. Celui-là, c'est quelqu'un, bien sûr, qui est en train de jouer avec quelque chose de grave. Ensuite, la dernière des choses, par exemple, maintenant, il y a une femme qui était avec les menstrues. Maintenant, elle s'est purifiée. Vous savez, une femme, quand elle se purifie, c'est-à-dire elle n'a plus de sang, elle a vu le liquide blanc. Si elle est du sort à avoir le liquide blanc, j'ai dit, il y a que les femmes, c'était deux sortes, celles qui ont le liquide blanc, celles qui ne l'ont pas. Celles qui ont le liquide blanc, quand elle le voit, alors elle est pure. L'autre, quand elle voit qu'elle est sèche, l'endroit est sec, classe, elle est pure. Donc qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Normalement, elle doit commencer par se laver. Le lavage des menstrues là n'est pas obligatoire que ça soit juste après les menstrues. Hein? Je peux attendre 1 heure, 2 heures jusqu'à l'heure de la prière, je suis libre. Mais maintenant, supposons qu'il n'y a pas d'eau. Qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Bien sûr, elle va faire le taïmoum et elle va faire la prière, s'il y a une prière maintenant. Si elle vient de se purifier juste avant l'heure de la prière, il n'y a pas d'eau. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit pas, je vais attendre l'eau à midi. Elle fait le taïmoum, elle fait la prière. La même chose si son mari veut faire un rapport avec elle. Son mari veut faire un rapport après s'être, il n'y a plus de sang maintenant. Normalement, il ne peut pas faire le rapport jusqu'à ce qu'elle se lave. Il est interdit, il faut qu'elle se lave. Comme a dit l'Azim dans le Coran. Maintenant, comme j'ai dit, il n'y a pas d'eau, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait le taïmoum et son mari fait le rapport avec elle. Voilà ce que je voulais dire pour aujourd'hui. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك رانديفو ان شاء الله تعالى دون 10 مينوت والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في صوت هل في صوت وعليكم السلام الله نعم on va commencer inchallah par ceux qui vont écrire au courrier on va aller un peu vite inchallah تعالى pour donner يعني l'occasion aux autres qui veulent poser des questions par rapport au DAS. Je vais très vite, je réponds très vite, Inch'Allah Ta'ala, jeudi. Maryam a dit, Maryam 2, j'aimerais savoir, Inch'Allah, si je ne me lève pas à l'heure de la salat Fajr, involontairement. Voilà, déjà, ça a rapport avec le DAS. Si je ne me lève pas à l'heure de la salat Fajr, involontairement, dois-je rattraper la salat Sunnat al-Fajr et deux rak'at avant le Fajr ou pas? Naam, tu regardes celui qui ne se lève pas involontairement et dans l'un des deux cas, ou bien il se lève un peu tôt, il reste beaucoup de temps pour que le soleil se lève. Celui-là, il commence par quoi? Il commence par le fajr, la sunna, ensuite il fait l'obligatoire. Maintenant, s'il se lève et trouve qu'il reste seulement quelques instants et le soleil va se lever, il a peur. Donc qu'est-ce qu'il fait? Celui-là, il commence par le fard, commence par l'obligatoire. Ensuite, quand il termine, il attend que le soleil se lève bien et il fait quoi? Il fait le fajr, la sunna. Maintenant, s'il se réveille, classe, carrément le soleil est sorti, il est 9h du matin, le soleil est sorti, qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il fait le adhan, ensuite il commence par la sunna du fajr, ensuite il fait la prière obligatoire. Si c'est pas compris, inshallah ta'ala, je recommence, fais mouassin. Salama 57. J'ai lu un hadith qui dit quiconque récite Ayat al-Kursi et après chaque prière obligatoire, rien ne le sépare du paradis que la mort. J'aimerais savoir si ce hadith est sahih. C'est un hadith sahih. Quiconque, quand il termine une salat, il dit Ayat al-Kursi, yani, il n'y a entre lui et le paradis que la mort. C'est-à-dire, s'il meurt, il va directement, inshallah ta'ala, au paradis. C'est un hadith sahih, naam. Ici, une sœur dit, on m'a passé une fatwa du Cheikh Fawzan sur le fait que nous ne pouvons pas prendre le nom de notre mari. Qu'en pensez-vous? Bon, elle a deux questions. La première, j'ai répondu hier. Qu'en pensez-vous? Et est-elle de réellement de Cheikh Fawzan? Quels sont les différents avis sur ce sujet? Barakallahu fikum. Naam, bismillahirrahmanirrahim, sallallahu alayhi wa sallam, mursalin. En islam, il est interdit à la femme de prendre le nom de son mari. Il est interdit. Bon, maintenant, vous allez me dire que c'est obligatoire à la mairie, etc. Moi, je parle pas de l'obligatoire. Je parle quand c'est pas obligatoire. C'est-à-dire, en islam, la femme, elle s'appelle par le nom de son père. Comme a dit Allah Azza wa Jal, Udruhum li abaihim. Chaque femme garde le nom de son père et non pas le nom de son mari. Maintenant, si c'est obligé sur la carte d'identité, etc., ça c'est autre chose. Moi, je parle ce que dit l'islam et quand ce n'est pas obligé. J'ai une fatwa qui circule au Sénégal, où il est dit que Cheikh Ben Baz, à rahmatullah, répondait à Habib Bourguiba. Mais ce qui me pose problème, c'est que le Cheikh a dit, c'est-à-dire Cheikh Ben Baz a dit, Innama yusamma amirul mu'minin man yahkum bi shari'at Allah. Donc, il dit, il semblerait d'après ceci que Cheikh Ben Baz ne voit pas qu'on doit prêter serment d'allégeance au président qui juge selon la laïcité. Je voudrais ainsi des explications sur ceci, Inch'Allah. De plus, les salafis qui sont ici au Sénégal et qui ont prêté serment d'allégeance au président disent que les autres qui n'ont pas fait la bay'a ne sont pas salafis. Alors ces gens disent qu'ils écoutent et obéissent, mais ne le considèrent pas comme émir. Est-ce que le fait de faire une distinction entre écouter et obéir et prêter serment d'allégeance qui est sortir de la salafia, barakallahu fik. En ce qui concerne Cheikh Ben Baz, je ne l'ai pas entendu. Je n'ai jamais lu cette fatwa, c'est pour ça que je ne peux pas dire que yani, je ne peux pas m'indiquer à l'air, parce que je ne sais pas s'il a dit ça vraiment et je ne l'ai pas lu de mes yeux. Il faudrait bien sûr que j'en sois très sûr. Mais de toute façon, il faut que tu saches que Cheikh Ben Baz al-Rahmatullah est le genre de savant qui dit que tant que le gouverneur est un croyant, tant qu'il dit Shahadun la ilaha illallah, Shahadun Muhammad al-Abduhu wa Rasuluhu, même s'il ne juge pas avec le Coran, mais ça veut dire il juge bighayri ma anzalallah subhanahu wa ta'ala, il dit tant qu'il dit je suis musulman, tu dois lui faire la bay'a et lui obéir. Donc ici, ceux qui ont dit est-ce que le fait de faire une distinction entre écouter et prêter serment, toute personne, je veux dire que on peut pas dire moi je lui obéis et en même temps, ce n'est pas un amir. C'est contradictoire. Le amir, c'est celui auquel on obéit. Non. Donc, le fait de lui obéir, c'est pour eux, c'est un amir. Maintenant, qu'ils veulent ou qu'ils ne veulent pas, eux. Ils disent, non, je veux pas l'appeler amir. Tu es libre. L'essentiel, c'est que quoi? C'est que tu lui obéis et tu ne fais pas comme les khawarij. Tu ne dis pas, celui-là, je lui fais la guerre parce que, la yahkum bi manzallah. mais tu fais la différence entre celui qui ne juge pas avec l'islam. Il y a trois ou quatre sortes. Tu fais la différence, confond Sunna ou Jama'a et non pas confond les Khariji. Quiconque dise ne juge pas avec l'islam, c'est quoi? C'est un kafir. Alors dans ce cas, ça s'applique aussi à eux, parce qu'eux ils ne jugent pas avec l'islam. Pourquoi ils ne jugent pas avec l'islam? Parce qu'ils expliquent le Coran de leur tête. Ils n'expliquent pas comment expliquer les grands ulama et Abdullah ibn Abbas et les sahaba et les autres. Voilà ce que j'ai ici, inshallah ta'ala. Une autre question, voilà, elle a dit. Puis-je transmettre une nasiha d'un frère pour des frères et sœurs qui sont présents? Tfadal, transmets la nasiha, a dit. Tfadal. Naam. Ça montre aussi que les questions ne doivent pas être avec le sujet puisque le cours n'est pas terminé. Naam. Ce qui m'a étonné, le Naam. Et que ces derniers temps, je ne pose plus de questions parce qu'il y a déjà plus de 10 levés déjà. Naam, c'est pour ça que j'ai donné à ceux qui ne peuvent pas poser des questions. Juste une petite nasiha pour les élèves du salon. Barakallahu fik. Naam, jazakallahu khair. C'est pour ça que je donne mon courrier pour que ceux qui ne peuvent pas poser ici, au moins ils les envoient et vous voyez, chaque jour je commence par eux. Tous ceux qui m'ont envoyé au courrier, je commence par leur répondre. Ensuite, j'ai dit que je demandais toujours aux sœurs qui sont avec nous dans cette salle, Inch'Allah Ta'ala, qu'elles soient respectueuses en ce sens de fermer leur PV, de bloquer leur PV. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui rentrent ici, il y a même qui se font appeler des sœurs comme Ibrahim, comme Kada, alors que peut-être lui c'est un homme et ils disent des choses, il y en a mal élevé. C'est pour ça que je demande à n'importe quelle sœur, je ne pardonne à aucune sœur qui, lorsqu'on lui envoie quelque chose de mal élevé ou là, et qu'elle ne me le dit pas pour faire sortir cette personne de la salle. Si une personne, on lui envoie quelque chose, une femme, et elle ne me le dit pas, celle-là je ne lui pardonne pas. Pourquoi? Parce qu'elle est dans ma salle et elle a laissé passer des choses comme ça. El Mohim. Une question, cette personne a dit, nous sommes sortis au parc, et comme c'était l'heure du Asr, j'avais fait la prière du Asr dans la voiture, vu qu'il y avait du monde dehors. Dites-moi si c'est autorisé ou pas, et si ce n'est pas autorisé, je dois la refaire. En principe, quand on est dans un parc ou n'importe quoi, on essaie de faire la prière dehors, debout. Toi, tu l'as faite dans la voiture. On essaie de la faire debout, dans un endroit, derrière un arbre, derrière son mari, derrière un osmé un peu... avec de retirer, on fait la prière, c'est comme ça qu'on l'a fait. Maintenant, tu l'as fait dans la voiture, quand on l'a fait dans la voiture, on l'a fait assis. En principe, l'obligatoire, on le fait que debout. On le fait assis quand on est dans l'obligation, là on est dans une petite barque, etc., comme a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc toi, c'est terminé pour cette fois, c'est pas la peine de refaire la salat, mais la prochaine fois, tu l'as fait debout dans le parc, dans un coin assez isolé, même s'il y a des gens qui te voient, l'essentiel que tu sois en face d'eux, tu leur donnes pas ton dos, et sauf s'il y a vraiment pas de place où mettre les pieds, ça bien sûr tu es obligé de la faire assis dans la voiture, mais en principe on la fait debout à l'intérieur, inshallah ta'ala. Je voudrais savoir si c'est sans oublier une chose très importante. Il y a une sœur qui m'a envoyé quelque chose, c'était très important, j'ai oublié c'était quoi, et elle m'a dit que je lui réponde par email, pas dans la salle. Elle m'a dit, réponds-moi, yani, c'est secret, etc., par email. Mais sans le vouloir, tout en triant mon courrier, je l'ai effacé. Tout en triant mon courrier, j'ai supprimé sa lettre. Qu'elle m'excuse, barakallahu fiha, qu'elle me réécrive une deuxième fois, parce que sans le vouloir, j'ai effacé sa lettre. Je voudrais savoir si c'est permis en islam de virer un imam d'une mosquée parce que celui-ci a soi-disant insulté certains croyants. Cet imam est à ce poste depuis plus de 24 ans et c'est un imam salafi. Ceux qui l'ont viré ne sont pas des salafis. Que faire dans ce cas? L'imam doit-il revenir?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Non, le chir arrive, Inch'Allah, il n'avait pas remarqué qu'il était déconnecté. Donc là, je l'ai appelé, il va pas tarder, Inch'Allah. Donc, si vous vous rappelez où il en était, pour pouvoir l'aider à reprendre le cours. Et aussi, je voulais en mettre en garde contre une personne qui m'a insulté en PV. conséquence, Inch'Allah, je vais le bloquer, il ne pourra pas rentrer sur le salon. Donc méfiez-vous de certains pseudos, Inch'Allah, bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
السلام عليكم ورحمة الله. فيه صوت. فيه صوت. نعم. كم السلام ورحمة الله وبركاته. لا حول ولا قوة إلا بالله. قدر الله ما شاء فعل. Je suis très désolé. J'ai parlé pendant un quart d'heure au moins en expliquant avec les détails et je savais pas que j'étais déconnecté. Même comme mon frère maintenant, Tam Allah, m'a téléphoné pour me dire que j'étais déconnecté. Après, je me suis parlé à moi-même, je me suis dit, celui-là, qui est cette personne qui me téléphone en plein dars, alors que moi je n'étais même pas dans le dars. La hawla wa la quwwata illa billah. Qaddar Allah ma sha fa'al. Quelqu'un, maintenant, je sais pas pourquoi ils ne mettent pas quelque chose qui, lorsqu'on est déconnecté, ça sonne que la santé quand on s'est déconnecté. Non, c'est qu'il m'a, une seconde, j'ai pas commencé avec ceux de la salle. J'ai pas terminé avec les autres. Bon. Inch'Allah. Il a dit ici, je vais très vite. Il y a quelqu'un qui a parlé de la. Il a parlé de ce qu'on fait avec le nouveau-né, etc. Je vais parler très vite. Maintenant, je peux pas redire tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Je vais parler très vite. Il a dit que c'est de la sunna de, en ce qui concerne l'Aden et l'Iqama. Il a dit, quand quelqu'un est né, on lui fait la, yani le Aden à l'oreille droite et l'Iqama à l'oreille gauche. Je lui dis, Inch'Allah Ta'ala, les deux sont faibles. On ne fait ni le Aden ni l'Iqama, ni dans l'oreille droite, ni dans l'oreille gauche. Tous les deux, Cheikh Al-Albani al-Rahmatullah avait dit, Naam, on fait l'Aden et l'Iqama. Ensuite, il a dit, Khlas, on ne fait plus l'Aden, c'est daif. Ensuite, il a dit, on ne fait plus l'Iqama, c'est daif. Ensuite, il a dit, c'est autre chose. En tradition, Naam. Ensuite, il a dit, on fait le technique. C'est-à-dire, on mâche un morceau de date, ou autre chose sucrée, pour une personne pieuse, et on lui met cette chose en contact avec sa bouche. Naam. Ça, c'est une sunna aussi. C'est une sunna. Le bébé, on commence par lui donner quelque chose de sucré, on la lui met dans la bouche, et c'est pas la peine spécialement d'aller chez une personne pieuse, parce que de nos jours, ça risque de faire rentrer les gens dans l'ujb, ce qu'on appelle l'ujb. Les gens vont dire, donc, seulement cette personne est pieuse. C'est seulement cette personne qui peut faire cette chose, etc. Ils vont dire, c'est un wali Allah, etc. pour rentrer dans les bidas. Ensuite, il a dit que il est recommandé de raser la tête de l'enfant au 7e jour de sa naissance, de peser les cheveux qui ont été retirés, couper et de donner en aumône au porc une quantité d'argent équivalente au poids des cheveux. Naam. Quand quelqu'un, on lui rase ses cheveux, qu'est-ce qu'on fait? On prend ses cheveux, on les pèse. S'ils font par exemple 5 grammes, on demande au bijoutier quel est le prix d'un gramme en argent et pas en or. Quel est le prix du gramme en argent? S'il nous dit par exemple c'est 10 euros le gramme, donc on multiplie 5 grammes de cheveux par 10 euros, ça donne 50, quoi? Ça donne 50 euros. Et on donne aux pauvres 50 euros. Naam. C'est en argent, le poids de l'argent et non pas le poids de l'or. Ensuite, il a dit ici, on doit aussi choisir un beau prénom. Naam. Un beau prénom, on l'appelle, par exemple, ou bien Abdullah ou Abdurrahman, c'est un garçon. Naam. C'est un garçon de préférence. Le premier garçon, on l'appelle Abdullah ou Abdurrahman. Mais si on l'appelle par un autre prénom, ça se fait. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme dans le Bukhari, il a dit, hier, l'Azouj m'a donné un enfant, je l'ai appelé comme son père Ibrahim. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un enfant, il l'a appelé quoi? Le premier garçon, il l'a appelé Ibrahim, qu'il a eu de Maria, qu'il a eu de Maria. Ensuite, il a dit, en ce qui concerne les animaux, un mouton, etc., deux moutons, Naam, je dis que, pour le garçon, on égorge deux moutons, ou bien deux chèvres, ou là, et pour le sexe féminin, une fille, on égorge seulement un mouton. Bien sûr, certains oulamas ont dit que pour les deux, un mouton, ça ne fait rien. Mais le mieux, c'est que pour le garçon, deux, pour la fille, un. Ensuite, tu as dit, on fait la aqiqa le 7e jour ou le 14e ou le 21e. Naam, c'est ça. Tu as dit le hadith est douteux. Moi, je te dis le hadith est sahih. Il est chez l'Albani, dans Sahih al-Jama, où il est dit, on fait la aqiqa le 7e jour, si on ne peut pas le 14e jour, si on ne peut pas le 21e. Mais ce sont les meilleurs jours, bien sûr. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas la faire le 40e, le 50e, etc. On peut la faire. C'est une sunna mu'akkada. C'est une sunna mu'akkada. Donc, mais les meilleurs jours, c'est soit le 7e, soit le 14e, soit le 21e, pour celui qui peut. Celui qui ne peut pas, il a fait, inshallah ta'ala, après. Ensuite, tu as dit que... Ah, naam. Tu as dit que... mais il est rapporté par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il n'a égorgé qu'un animal pour la aqiqa de ses petits fils, béni, Hassan ou Hussein. C'est la raison pour laquelle, en général, les savants d'école hanafite, etc., et le malikite, considèrent que le nombre à sacrifier est toujours un mouton, soit pour un garçon, soit pour une fille. Je dis que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sache, Hadith Abu Daoud, il est sahih, il a sacrifié pour Hassan al-Hussein un mouton. Mais ensuite il a montré que c'est mieux deux, c'est mieux qu'un. Donc lui, quand il a fait, ou bien Jibril alayhi salam ne lui avait pas encore dit que deux c'est mieux, ou bien parce qu'il n'avait pas les moyens. Mais deux c'est mieux pour le garçon, un pour la fille. Et si on fait un seul parce qu'on n'a pas les moyens, c'est possible. Ensuite, tu as dit le garçon, il doit être circoncis. Beaucoup de savants disent que c'est wajib. Naam, c'est wajib. Le garçon doit être circoncis. C'est wajib. Quelle est la preuve que c'est wajib? Je vais vous dire la preuve que c'est wajib. En islam, personne, après la puberté, n'a le droit de montrer ses parties intimes à un autre. Sauf bien sûr la femme à son mari, le mari à sa femme, etc. Maintenant, toi, le médecin, si quelqu'un fait entre en islam à l'âge de 50 ans. Maintenant, il va aller au médecin, il va lui montrer son membre pour faire la circoncision. Donc voilà une preuve que c'est wajib, car on ne montre le membre Ada que par si c'est wajib et si c'est nécessaire. Sinon, on ne doit pas montrer ces choses-là. Donc, puisque c'est obligatoire, c'est pour ça que tu vas lui montrer le membre pour faire la circoncision. Ensuite, Ibn al-Haythamin a dit autre chose aussi qui m'a plu. Il a dit que se couper quelque chose du corps humain est interdit. Est-ce que moi, par exemple, j'ai le droit de me couper, de prendre un peu de mon oreille, je coupe un peu de mon oreille ou de mon nez, ou je dis à quelqu'un, coupe-moi, c'est interdit, bien sûr. Pourquoi? Parce que c'est pas mon corps. Mon corps, c'est Allah Ta'ala qui l'a créé, je dois lui rendre comme il était. Donc je ne coupe que ce qu'il me dit lui, comme la circoncision. Donc ils ont dit, et puisqu'on peut se couper de la circoncision, donc c'est une preuve que c'est quelque chose d'obligatoire. Sinon, on n'est pas fou pour se couper quelque chose et rentrer dans le haram. Donc c'est une preuve que c'est une obligation. Ensuite, tu as dit que et si le Hassan ou le Hussein ne sont pas nés le même jour, comment alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pu égorger qu'un seul mouton? Naam. Je te répondrai, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Abu Daoud, il est dit qu'il a égorgé un mouton, pas un mouton pour les deux. Un mouton. Mais quand il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a égorgé un mouton pour les deux, ça veut dire deux moutons pour les deux, ça ne veut pas dire qu'il a égorgé le même jour. Non, ça veut dire qu'il a égorgé un mouton lorsqu'il a fait la aqiqa de l'Hassan et un mouton lorsqu'il a fait la aqiqa de l'Hussein. C'est bien simple. C'est comme toi, tu parles de, tu as deux garçons, l'un il a 5 ans, l'autre il a 10 ans. Là, tu leur dis, vous, quand j'ai fait votre aqiqa, toi je t'ai égorgé un mouton et l'autre deux. Mais ça ne veut pas dire que tu as fait la aqiqa le même jour. Tu l'as fait 10 ans après. Donc il n'y a pas de hadith ici qui dit qu'ils sont nés, que ça veut dire qu'ils sont nés le même jour. D'ailleurs, hier, un frère Barakallahu Fik nous a apporté le hadith qui montre qu'il y avait deux années de différence entre le Hassan et le Hussein. Ensuite, dernière chose, je veux comprendre comment on fait pour ne pas casser les os du mouton. Casser ou ne pas casser les os du mouton, ça n'a pas d'importance. Le hadith, il est faible, qui dit on ne peut pas le casser, etc. Tu fais normalement, tu coupes et tu donnes un peu aux pauvres et l'autre à la maison et l'autre tu invites des amis si tu peux. Ensuite il a dit, j'aimerais savoir si quelqu'un était riche mais à la naissance de son bébé il n'a pas pu égorger le mouton, est-ce qu'il a commis un péché? Je dis c'est une sunna mu'akkada, yani il était riche et il n'a pas égorgé, il n'a pas fait quelque chose de bien, s'il avait égorgé ça aurait été mieux, surtout qu'il était riche, surtout qu'il était riche. Et est-ce que sa fille veut égorger un mouton, est-ce que ça sera accepté ou pas, tout en sachant qu'elle est adulte? Yani, sa fille veut égorger un mouton pour elle, car son père était riche, n'a pas égorgé pour elle. Naam, elle peut, car il y a un hadith qui est bon, qui est hassan, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était adulte lui, après la prophétie, il avait égorgé un ou deux moutons pour sa aqiqa. Il y a ce hadith, certains disent il est faible, mais certains ont dit c'est un hadith hassan, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, quand il est devenu prophète, etc., il a fait sa aqiqa, c'est-à-dire il a égorgé deux moutons à la place de son père n'a pas égorgé pour lui quand il est petit. Wallahu ta'ala alam. Ensuite, il y a quelqu'un qui a dit la dernière des choses, on a perdu beaucoup de temps, bien sûr. Enfin, on n'a pas perdu de temps. On est en train de parler dans le din. Mais la règle, qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas ne pas répondre à cela. Un frère veut m'épouser. Cela dit, il dit suivre le Coran et la Sunna. Mais ne se prétend pas suivre le minhaj salafi. Que dois-je faire? Que dois-je faire? Naam, ma soeur, je te répondrai très simplement. Cela dépend de toi. Si toi, tu es vraiment une salafia, ça sera difficile de te marier avec quelqu'un qui n'est pas salafi. Si tu es vraiment salafia, ça sera difficile de te marier avec quelqu'un qui n'est pas salafi. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, celui qui ne se prétend pas salafi, on a beaucoup de sortes. Il y a celui qui ne se prétend pas, il est contre. Et il y a celui qui ne se prétend pas, mais qui est simple, qui est gentil. Ça veut dire que toi, tu peux lui apprendre, il devient salafi. Donc toi tu regardes quel est ce genre. Il y a ceux qui ne sont pas salafis qui sont contre. Ah laisse-moi, tu parles toujours de ça, on parle toujours du siwak du matin au soir, laisse-nous. Les yahouds, les juifs ont fait l'akhar, etc. Le djihad. Parlons, celui-là il est contre le menacer, celui-là je ne te conseille pas. Mais si c'est quelqu'un d'éduqué, quelqu'un de gentil, quelqu'un qui accepte, quelqu'un qui, auquel tu vas montrer, il va accepter, ok, donc, ça, Inch'Allah Ta'ala, ça revient à toi, Inch'Allah Ta'ala. Si tu trouves quelqu'un de salafi, commence par lui. Si tu ne trouves pas, va au deuxième, au moins quelqu'un qui est normal, qui n'est pas contre. Inch'Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jal t'aidera. C'est Inch'Allah Ta'ala la salat de la consultation. Ensuite, je connais une soeur qui passe depuis 3 ans pour se marier avec son cousin éloigné d'Algérie. Le problème qui se pose, c'est que ses parents ne veulent pas, sans raison, Allah Alam. Sachant que ce frère, c'est lui qui l'a aidé afin qu'elle soit devenue, yani, salafia. Naam. Ses parents ne veulent pas. D'accord, mais ses parents ne peuvent pas la marier avec quelqu'un qu'elle ne veut pas aussi. Donc on commence là le chantage. Vous voulez marier avec quelqu'un que vous voulez vous, moi je ne me marie pas aussi. Parce que c'est moi qui vais vivre avec lui, c'est pas vous. C'est moi qui va rester 15, 20, 30, 40, 50 ans avec ce bonhomme. C'est moi qui va être du matin au soir avec lui. C'est moi qui va dormir avec lui. Donc c'est moi qui choisis la personne et ce n'est pas vous. C'est comme ça qu'on apprend à nos parents. Yani avec chikma, avec sagesse, avec sourire, avec on dit Wallah ya ma mère, toi tu t'es marié, alhamdoulilah, là je t'ai donné quelqu'un, mashallah, etc. Il faut que tu aimes pour moi ce que tu aimes pour toi, ma mère. Il faut que tu aimes pour moi. Tu voudrais que je sois malheureuse moi, tu m'épouses, tu me fais marier avec quelqu'un que je n'aime pas, quelqu'un que je déteste, quelqu'un qui n'est pas de mes goûts, tu veux ça ma mère? Et c'est la même chose. Le prophète a dit, personne ne devient croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère, ce qu'il aime pour lui. Comme ça tu dis à ta mère. Je lui dis comme ça, la même chose, moi si vous m'aimez, mariez-moi avec celui-là, barakallahu fikoum, sauf s'il n'a pas les conditions, il a les conditions, il est mashallah, il fait la salat, il est... Maintenant, si après je vous fais des problèmes, ça c'est de ma faute. Si après je vous fais le problème, ne m'aidez pas. Ne m'aidez pas, laissez-moi avec mes problèmes. Mais on ne se marie pas avec quelqu'un qu'on n'aime pas ou de quelqu'un, on va me l'amener à cause qu'il a de l'argent, à cause qu'il est beau, à cause qu'il est irresponsable, là, il n'a ni din ni rien. Celle-là, elle fait la prière et elle fait la prière la nuit. Elle, quand l'azur descend au ciel du bas monde, elle lui demande de la marier avec celui-là, où elle fait d'abord l'istikhara. Peut-être qu'il n'est pas bien, peut-être qu'il est bien seulement pour elle, devant ses yeux, et peut-être que chez Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas celui-là qui lui convient. Donc elle fait awal al-istikhara et elle demande à Allah subhanahu wa ta'ala si c'est quelqu'un qui est bien, etc., de le rapprocher. Allah Azza wa Jal lui, Inch'Allah, exaucera ses doigts. Naam, je crois que c'est la dernière chose. Cheikh, il me semble, Allah, vous avez entendu dire que Yom al-Qiyama, Allah Ta'ala enverra un prophète pour les gens qui n'ont pas reçu le message de l'islam. Ou ai-je peut-être mal compris? Car le prophète alayhi salam a dit qu'il était le dernier des prophètes. Et donc j'aimerais savoir votre dalil, ou alors dites-moi inshallah que j'ai mal compris. Là inshallah tu as très bien compris. Inshallah tu as très bien compris. C'est moi qui ai dit cela, Naam. Je l'ai dit pourquoi? Parce que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit, ce n'est pas moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit que c'était le dernier prophète sur terre. Sur terre. Mais nous on parle de jugement dernier, le jour de la résurrection. Quiconque dans cette vie n'a pas reçu de prophète, Allah Azza wa Jalla lui enverra ce jour-là un prophète. Et comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith sahih, il se trouve dans Sahih al-Jama, note-le si tu veux, Sahih al-Jama al-Albani, numéro 881. Numéro 881. Il a dit, quatre personnes essaieront de parler le jour du jugement dernier. Essaieront yani, d'avoir raison. Rajulun Asam, quelqu'un qui est sourd-muet ou la muet. Asam. La isma, pardon, monsieur muet. Rajulun Asam, c'est sourd. La isma ou shay'an, qui n'entend rien. Wa rajulun ahmaq, quelqu'un qui est, comme on dit, un peu fou, là, par des mentales ou là. Wa rajulun harim, et quelqu'un qui est devenu vieux au point il ne sait plus ce qu'il dit. Wa rajulun mata fi fatra, et une personne qui est morte dans un temps où elle n'a pas eu de prophète. Il n'y a pas eu de prophète. Fa amma al-asam, quant au sourd, il dira Rabbi laqad ja'a al-islam wa ma asma'u shay'an. Le sourd dira Ya Allah, l'islam est venu, moi je suis sourd, je n'ai jamais entendu de ça. Wa amma al-ahmaq, le fou hada, qui est malade dans la tête, fa yaqul Rabbi ja'a al-islam wa ma aqilu shay'an. والصبيان يحدثونني بالبعض. Le fou hada, il dira Oh Allah, l'islam est venu, mais je n'avais pas ma tête, yani je concevais rien, je comprenais rien. Il y a même les enfants qui me frappaient avec les excréments des moutons, etc. Ils me frappaient. Ils me jetaient comme ça, comme on jette des cailloux. Wa amma al-harim, quant au vieillard, il dira Rabbi laqad ja'a al-islam wa ma aqilu shay'an. L'islam est venu, mais je comprenais rien. C'est-à-dire, je veux dire, un vieillard, comme on dit en arabe, yani yakhraf, khalas, il dit n'importe quoi. Vous savez, quand il dépasse 95 ans, il dit n'importe quoi, il ne sait plus où il est, il urine sur lui, etc., etc. Celui-là, il dira, Ya Allah, l'islam est venu, j'avais un âge où je ne comprenais rien, etc. Et celui qui est mort dans une période où il n'y avait ni prophète, ni etc., qu'est-ce qu'il dira? Ma atani laka min rasoul. Aucun prophète ne m'est venu. Fayakhudullah mawatiqam, Allah Azza wa Jal fait des pactes avec eux, que s'il enverrait un prophète, est-ce qu'ils vont le lui obéir? Ils vont dire Naam, ils vont prendre le pacte. Alors Allah Azza wa Jalla leur enverra un prophète là-bas qui leur dira de rentrer en enfer pour essayer de les tester s'ils veulent, s'ils le suivent ou pas. Il a dit فَمَنْ دَخَلَهَا كَانْتَ عَلِهِ بَرْدًا وَسَلَامًا. Quiconque dira d'accord, je vais rentrer en enfer, quiconque, Allah Azza wa Jalla fera de cet enfer pour lui comme un paradis. وَمَنْ لَمْ يَدْخُلْهَا سُحِبَ إِلَيْهِ. Et quiconque dira non, je ne t'obéis pas, dira ce prophète, je ne t'obéis pas, on va le yani je le jeter en enfer. Donc voilà le hadith inshallah ta'ala, j'ai terminé avec cela inshallah ta'ala. En même temps j'ai terminé avec la hawla wa la quwwata illa billah. En même temps l'heure est terminée, je crois qu'on a terminé aujourd'hui, mais je vais commencer par le premier, deuxième, etc. Naam Saïd 99, comme ça ils vont pas dire pourquoi tu, si les autres tu as répondu aux autres et nous tu nous as pas répondu. Tfadbal Saïd 91. Après lui, Inch'Allah, après Saïd, tu poses. Saïd, est-ce que tu m'entends? J'attends ta question, Inch'Allah Ta'ala. Je ne sais pas, mais je vois rien, moi. Je vois pas la question, Ali, où est-ce qu'elle est. Sakina, pose ta question. Est-ce qu'il y a les questions des sœurs? J'aimerais savoir si le réveil nous lève à l'heure de Salat, on l'entend. Mais on l'éteint volontairement et la fatigue est tellement lourde qu'on s'endort. Est-ce qu'Allah nous compte comme un péché? Inch'Allah Ta'ala, si tu le fais inconsciemment, c'est pas un péché. Des fois, on le fait inconsciemment. Ou bien on se dit, bon, je l'arrête et je vais me lever. Ensuite, on dort. Si c'est ainsi, Inch'Allah Ta'ala, ce n'est pas un péché. Car Allah Azza wa Jalla sait ce qu'il y a dans nos cœurs. Et ça nous arrive à tous. Des fois, on dit, attends, je vais l'arrêter, je vais me lever. Ensuite, on se rendort une heure ou là. Inch'Allah Ta'ala, en ce sens, Inch'Allah, ce n'est pas un péché. Abu Mouad, tfaddal. Abdullah, après Abu Mouad.
Salam alaikum wa rahmatullah. Cheikh, est-ce que vous m'entendez? Tout d'abord, je voulais vous remercier, Cheikh Barakallahu Fik, pour votre réponse concernant l'Yawm al-Qiyama et le prophète. Wallahi, j'avais un grand pincement au cœur parce que j'avais pas tout à fait compris. Et donc, j'avais pas noté de dalil. Barakallahu Fik, pour votre éclaircissement. Et ensuite, Cheikh, j'avais une question par rapport à l'Iman. Donc nous savons que l'iman monte et descend, et ma question est de savoir, Shir, est-ce que l'iman peut descendre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'iman chez le muslim? Ahsan Allah ilayk, Shir. Salam alaikum wa rahmatullah.
Alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Sur cette question, la deuxième question a dit, il y a eu un grand jidal entre les ulama, même les contemporains maintenant. Ils disent ce qu'il descend, hein. Bien sûr, lui il peut descendre jusqu'à quoi? Jusqu'à être, yani, au minimum. Parce que il y a une limite quant à la défense, on rentre dans la mécréance. Donc il peut descendre jusqu'à ce qu'il soit quoi? S'il soit à la base. C'est comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Allah Azza wa Jal fera sortir de l'enfer ceux qui auront dans le cœur mitqal zerra. Là il a dit mitqal dinar, ensuite il a dit mitqal zerra. Zerra, c'est un atome. Mithqal dirra min iman. Donc, tu vois l'atome, un mithqal de l'atome, on peut l'avoir dans le cœur. On est musulman et croyant avec cet atome. Donc, c'est le moins. Donc, on peut descendre. Si maintenant on a perdu par exemple cet atome, ça s'en est passé de l'autre côté. Donc, il descend jusqu'au minimum. Mais ça reste toujours comme un atome qui fait de toi le musulman. Si tu perds cet atome, on se renverse de l'autre côté. Allah l'afiya, on devient un kafir. Mais comme tu as dit, il peut descendre beaucoup, 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 beaucoup. Naam, il peut descendre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Maintenant, pour la sœur, je voudrais vous répéter pour ça. Le fait, lorsqu'on se réveille involontairement, là, il dit écrit, lorsqu'on se réveille involontairement, on ne se réveille pas involontairement. Naam, pour lorsqu'on ne se réveille pas involontairement, on n'a pas de péché. Pourquoi? Parce qu'on a essayé, mais seulement on essaye de prendre la cause. Cheikh la femme sœur n'a pas plusieurs questions. Naam, tu poses à sa place. Donc, je revenais à dire, quand une femme ou quelqu'un se réveille tard, mais involontairement, il n'a pas fait exprès. Ensuite, il a essayé de faire les causes. Il a essayé, par exemple, de mettre un réveil. Ou bien il a essayé de dire, par exemple, à ses parents, réveillez-moi. Ou de dire à sa femme, réveille-moi. Ensuite, il ne s'est pas réveillé. Hada, Inch'Allah ta'ala, c'est pas une mouchkila pour lui. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait exprès. Il n'a pas fait exprès. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a dit, quelqu'un qui dort, yani, on ne peut pas dire de lui qu'il a fait un péché ou là. Il a dit, quand quelqu'un dort, yani, y a pas de problème pour lui. À peu près en ce sens, ça, ce qu'il a voulu dire. La femme de Saadi a dit, alaykum salam wa rahmatullah, est-ce qu'une femme peut conduire seule? La conduite elle-même n'est pas interdite. Ce qui est interdit, c'est que quand elle conduit seule, elle tombe en panne, par exemple. Comment qu'elle va faire? Imaginez, elle est entre une ville et une autre, et elle vient tomber en panne à droite. Il y a le désert, et à gauche, il y a la forêt, et il y a les loups derrière, et il y a les chacals devant. Comment qu'elle va faire celle-là? Les loups et les chacals, ce ne sont pas des animaux, hein, ce sont des personnes. Les loups, avec un caillou, il se sauve. Mais ceux-là, ils ne se sauvent pas. Ils se rapprochent de plus en plus. Comment qu'elle va faire quand elle tombe en panne, en plein milieu comme ça, au sortir de la ville? Il faut bien sûr qu'une voiture l'aide. La voiture, qui est-ce qui va descendre la voiture pour l'aider? C'est un soulard, c'est quelqu'un de drogué, c'est quelqu'un qui a un grand couteau avec lui, peut-être. Alors, on va entrer dans le grand machin. C'est pour ça, conduire n'est pas interdit. Quiconque dit une femme ne peut pas conduire, yani c'est interdit de conduire, il se trompe. Car comme a dit Cheikh Al-Albani, alors qui conduisait le chameau autrefois? C'est pas les femmes, elles montaient sur le chameau, elles partaient en voyage, etc. Bien sûr, avec le mahram. Quiconque peut conduire un chameau a le droit de conduire un chameau, il a le droit de conduire quoi? Il a le droit de conduire une voiture. Mais moi je dis, pourquoi les ulama ont dit c'est interdit? C'est à cause de quoi? À cause des systèmes qui peuvent arriver. C'est pour ça que si elle conduit à son frère devant elle ou là, son père, ou là elle conduit normalement, inchallah ta'ala. Si c'est laquelle doit faire avant l'obligation ou la sunna. Naam, où est-ce qu'elle était la sœur quand j'étais en train d'expliquer? Sakina, où est-ce qu'elle était la sœur quand j'étais en train d'expliquer? Peut-être elle a mal compris, d'accord. Alors, si elle a mal compris, je lui répète. Mais si elle a mal compris, je lui répète. Car ça, c'est obligé que je lui répète. Et je répète à tout le monde, parce que c'est très important. Quand quelqu'un se réveille le matin, après l'heure, il est dans l'un des trois cas. Il a trois cas seulement, il n'y a pas le quatrième. Ou bien il se lève, il reste beaucoup de temps pour que le soleil se lève. Ou bien lorsqu'il s'est levé, il reste beaucoup de temps pour que le soleil se lève. Donc celui-là, il a beaucoup de temps devant lui. Le soleil va se lever dans une heure. Vous savez que le signe avec lequel on sait si la prière est sortie ou pas, du sobh, c'est le soleil. Si le soleil se lève, ça veut dire notre salat, l'heure est terminée. Donc nous, ce qui est intéressant, c'est le soleil le matin. Donc le matin, quand on se lève, on regarde direct dehors, par la fenêtre, est-ce que le soleil est loin de se lever ou là il va se lever. S'il fait noir, ça c'est le premier cas, il fait noir, le soleil ne va pas se lever maintenant, qu'est-ce que je fais? Je commence par la sunna, le fajr. Ensuite, je fais l'iqama et je fais sobh. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, je me suis réveillé et je vois que le soleil va bientôt se lever. Déjà, c'est jaune. Je vois les rayons qui commencent à sortir de la montagne. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je fais ici? Ici, je commence par le sobh. Je commence par l'obligatoire. Parce que si je fais la sunna, le soleil va se lever, ma prière khlas est sortie de l'heure. Donc dans ce cas, qu'est-ce que je fais? Deuxième cas, je commence par l'obligatoire. Et quand je termine, j'attends quand le soleil se lève. Et qu'est-ce que je fais? Je fais la sunna. Parce que je ne peux pas faire la sunna quand le soleil est en train de se lever. Quand le soleil se lève vers 8h, 9h, se lève bien, je vais faire la sunna. Maintenant, troisième cas, je me suis réveillé, le soleil est en plein ciel. Classe, ça fait une demi-heure que le soleil s'est levé, je le vois en face de moi comme un ballon, il est en face de moi. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je commence par la sunna, je fais l'adhan, je commence par la sunna, ensuite je fais l'obligatoire. Pourquoi? Parce que le soleil s'est levé, c'est trop tard. Donc, je commence par tartib, je classe ma salat, je commence par la sunna, ensuite le sobh. C'est comme ça qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand une fois il s'est levé en retard, il a trouvé le soleil comme ça en face de ses yeux, il a fait le adhan, il a commencé par la sunna, ensuite il a commencé par quoi? Par le fard. Mais qu'est-ce qu'il a dit à Abu Bakr et les autres? Il leur a dit, partons de cet endroit, car ils avaient passé la nuit dans un wed. Il a dit, partons de cet endroit, le shaitan s'est endormi avec nous. C'est-à-dire, le shaitan s'est endormi avec nous, c'est pour ça qu'on ne s'est pas levé. Donc maintenant, si je vous dis chez vous, à chaque fois que vous vous réveillez tard, partez de votre maison, car le shaitan s'est endormi avec vous. Hein, vous allez louer un autre appartement. Bon, j'espère, inshallah ta'ala, que c'est bien compris cette fois. J'espère que c'est bien compris. Maintenant, là, il n'y a pas de dérangement. Inshallah ta'ala, c'est obligatoire que je lui montre. C'est obligatoire. Moi, je croyais seulement que quoi? Je croyais que moi, je parlais, elle discutait ou là, elle n'a pas entendu. C'est tout. Maintenant, tu réponds sur le nouvel livre. Naam. Abu Shayma 40, tafadhal. Et les sœurs, vous préparez les questions des sœurs. Ma'alej, je dis comme un quart d'heure ou là 20 minutes parce que j'ai parlé dans le vide tout à l'heure 20 minutes, donc c'est de ma faute. Abu Shayma tafadhal, barakallahu fik. Inch'Allah, j'ai peur d'oublier, c'est pour ça que je le dis maintenant, j'ai peur d'oublier. Barakallahu fikoum. Demain, inch'Allah ta'ala, demain, inch'Allah ta'ala, il n'y a pas de dars. Le dars sera après demain, c'est-à-dire mercredi, 22h européenne, Aqida. Mercredi, inch'Allah, 22h européenne, Aqida. Demain, inch'Allah, mardi, il n'y a pas de dars, inch'Allah. Pourquoi je vous dis comme ça? Pour que ceux qui ne connaissent pas les bonnes salles du Paltok, c'est pas la peine de rentrer. S'il n'y a pas de bonne salle, les salles de Salafi, reste chez toi, n'ouvre pas le paltok, tu as Inch'Allah Ajr, pour ne pas rentrer dans les choses où on dit des choses qui vont vous égarer, des aqidas faux, des hadiths faux, etc. reste à la maison et prends un livre ou la discute avec tes parents, mieux que de rentrer dans une salle où c'est tout faux. Abou Shayma a dit, Abou Shayma, salam alaykoum wa rahmatullah, jazakallahu khayran d'avoir répondu à mon email sur nous venir, barakallahu fik. Et c'est juste une dernière chose pour ma dernière question. Tu as dit que d'après quelques savants, c'est Hadith Hassan, et pourquoi d'autre? Et quoi le tchrij, le fait qu'on ait dit qu'on est dans la Aqira? Naam. D'abord, comment il s'appelle celui-là? Abou Shayma 40. Abou Shayma 40, ce hadith, je l'ai lu il y a à peu près 8 ou 10 ans, je l'ai lu dans une risala, tu sais, inchallah, tu comprends l'arabe. Une risala spécialement qui parle de Ahkam al-Mouloud. Ahkam al-Mouloud, c'est quelqu'un, naam, c'est quelqu'un, yani un talib ilm qawi, qui a fait une risala spécialement sur le Mouloud pour montrer, yani, qui est valable, ce qui n'est pas valable, etc. Et ici, il a parlé sur Hadith, il a dit certains ont dit ceci, certains ont dit cela, mais il est Hassan. Mais qu'est-ce que je vais faire, moi, Inch'Allah Ta'ala, je vais chercher personnellement, revenir dans mes souvenirs, et te chercher, Inch'Allah, où est ce Hadith, et te le rapporter, Inch'Allah, très bientôt. Je le note maintenant devant moi, Inch'Allah Ta'ala. Attends-moi quelques jours, Inch'Allah, n'jib lek takhrijahu, hatta, Inch'Allah, tu sois sûr, bi'idhnillah, subhanahu wa ta'ala. Naam. Est-ce qu'il y a une question d'une sœur, Inch'Allah Ta'ala? Naam, j'écris d'abord le hadith de mon frère ici. Le hadith qui parle de que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a égorgé pour lui quand il était adulte. Naam. Shuraib 2 a dit, salam alaykoum, cherche toujours de savoir s'il fait partie de la sunna de raser les cheveux du bébé lorsqu'il s'agit d'une fille, barakallahu fik. Wallahi, j'ai cru lire, c'est ça, que on faisait seulement ça aux garçons. C'est ce que j'ai lu une fois, j'ai bien cherché cette chose, ça m'a intrigué, je suis resté des jours à chercher dans cette chose, est-ce qu'on coupe aussi pour la fille ou pas. Et si je me souviens bien, j'ai trouvé ça chez Ibn Qayyim, mais je crois que ce n'est pas dans Tuhfat al-Mawlud, dans un autre livre à lui, où il a dit que ça c'est seulement pour le garçon. Mais pour être aussi plus sûr, je vais noter ici, car cette mes'ala, je l'ai cherché une fois, mais ça fait longtemps. Je vais aussi noter ici, pour être plus sûr, Inch'Allah Ta'ala, et te la ramener la prochaine fois. Mais maintenant, je dis que Inch'Allah Ta'ala, c'est seulement le garçon à qui on fait cela. Wallahu ta'ala alam, je te donnerai inshallah le plus sûr très bientôt. Ala ad-din tafaddal. Abou Shayma. Je suis en train d'écrire Fakat, qu'est-ce que je dois chercher. Elle dit Om Shore. Regarde, je note ici. Non. Abou. Salam alaikum. On m'a dit qu'il existe un hadith qu'il est interdit de prier sauf maghrib dans le noir, sans le citer. Pouvez-vous me dire cela si c'est véridique, barakallahu fikum? C'est la première fois que j'entends cette chose, ala ad-din. C'est la première fois que j'entends qu'il y a un hadith en ce sens. Moi, je ne le connais pas. Je ne connais pas un hadith qui dit ceci. S'il y a Inch'Allah Ta'ala et tu le trouves, si ce quelqu'un te le donne, naam. Si ce quelqu'un demande lui, dis-lui où ça se trouve ce hadith, pour qu'on voit s'il est vrai. Je n'ai jamais lu ou là j'ai jamais entendu un Adam dire que ce qu'il a dit, ce qu'a dit cette personne. Wallahu ta'ala a'lam. Abou Ahmed, tafaddal. Fika barakallah ala ad-din. Abou Ahmed, est-ce que tu es avec nous? Tafaddal. Est-ce qu'il y a des questions pour les soeurs ou laisse terminer avec les soeurs? comme Safiya dit, salam alaikum, est-ce que les prénoms Iman et Ihsan sont permis par Allah fikum? Ce que je sais, Allah ta'ala alam, c'est que de préférence on n'appelle pas ainsi. Parce que ce sont des prénoms de Tazkiyah. Il y a un hadith qui dit que on donne pas les prénoms de Tazkiyah. Quand on dit Ihsan, ça veut dire que c'est une fille, elle dit, qui est Muhsina. Iman, khlas, ça veut dire que c'est une fille, elle est mu'mina celle-là. C'est pour ça que, de préférence, on choisit, si vous voulez avoir un grand ajr, choisissez, comme les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, choisissez ces femmes, choisissez Safiya, choisissez Zainab, choisissez Ruqiyya, choisissez Habiba, choisissez, yani, comme s'appelaient les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme ça, choisissez Khadija, il aimait beaucoup le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aimait beaucoup, beaucoup Khadija, choisissez Aïcha, comme ça, yani, pour que, en même temps, vous rentrez dans quoi? Dans avoir ajr. Parce que vous vous dites, moi, pourquoi je vais appeler Aïcha? Aïcha, peut-être même, astaghfirullah, peut-être même c'est démodé. Aïcha. Imaginons plein Paris, j'appelle une femme, je lui dis Aïcha, en plein Paris, peut-être ça va les étonner. Mais Iman, Ihsan, ça fait un peu la mode, ça passe. Aïcha, c'est difficile. Mais moi, spécialement, je choisis alors Aïcha pour faire vivre, yani, la sunna. Pour que les gens sachent c'est qui c'est celle-là, Aïcha, pourquoi elle l'appelait Aïcha. Aïcha, c'est la femme du prophète, c'est la femme qui l'aimait beaucoup, c'est Ibn Siddiq, c'est Kada, c'est Kaza. En ce sens, Inch'Allah ta'ala, vous aurez un grand, grand ajr. Faites de votre vie, comme a dit le verset. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Fais de ta vie, vis pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ne sois pas complexé devant les gens. Ne sois pas complexé. Moi, je sais que Aïcha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aimait beaucoup. Je sais que Khadija, il l'aimait beaucoup. J'appelle Khadija, j'appelle Aïcha. Je n'ai pas honte, je ne suis pas complexé devant Véronique ou la Jacqueline ou la Marie-Pierre. Je ne suis pas complexé. Elle a sa religion, moi j'ai ma religion, inshallah ta'ala. Abou Ahmed n'a pas posé de question. Khan Paris, tfadbal. French Paris, tfadbal. Il est descendu, je ne sais pas pourquoi. Abdel Muslim, tfadbal. Bon, entre parenthèses, ça, entre parenthèses, puisque moi, quand je vous parle de moi, c'est que je vous parle des choses qui ont rapport seulement avec le DAF. Entre parenthèses, les filles, j'en ai quatre. J'ai appelé la première Khadija. J'ai appelé la deuxième Fatima. Khadija, c'est la femme du prophète. Fatima, c'est sa fille. J'ai appelé la troisième Sekina. C'est la fille de Hassan ou bien Hussein. Ensuite, j'ai appelé la quatrième Safiya. C'est la femme du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, ça, c'est juste par sa rapport avec le DAS. Abou Ahmed a dit, si je suis en état d'impureté mineure, puis-je faire le taïmoum juste pour lire le Coran? Impureté mineure. Abou Ahmed, tu veux dire, yani sans wudu, c'est ça, impureté mineure, yani, tu n'as pas les ablutions, les petites ablutions, ça? Tu n'as pas les petites ablutions. Est-ce que c'est ça veut dire? Ah, non. En fait, celui qui fait le taïmoum pour lire le Coran, c'est mieux que celui qui le lit comme ça, yani, sans les ablutions. Yani, avec le taïmoum au moins, c'est mieux que celui qui lit comme ça directement. De préférence, celui qui fait les ablutions. Mais, puisque ce n'est pas, il n'y a pas un hadith qui est comme ça très clair, très solide, qu'il faut pour le Coran les ablutions, donc au moins, inshallah ta'ala, au moins le taïmoum. Yani, je veux dire, au moins, mais ce n'est pas, yani, le plus parfait, bien sûr. Wallahu ta'ala alam. Abdul Muslim, est-ce qu'il y a pour une sœur une question? Abdul Muslim, pose ta question, inshallah. Abdul Muslim. On termine à 30, inshallah. Il reste 7 minutes. 30, inshallah ta'ala, on termine. Abdul Ghani, tafadbal. Abdul Ghani, pose ta question, inshallah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته مغفرته كيف هي المسافة pour faire taïmoum par exemple si je sais qu'il a de loin 1 km est-ce qu'il y a une distance justement Abdelrahman il n'y a pas une distance J'ai lu même une fois quelqu'un qui a fait une risala spécialement sur le Taïmoum, qui a dit que même comme ça, yani, aller au loin, marcher comme ça un kilomètre là pour chercher l'eau, il a dit que ça rentre dans la bida. En fait, un kilomètre, c'est impossible. C'est impossible d'aller marcher un kilomètre pour chercher de l'eau. Ça, c'est impossible. On cherche seulement ça devant la porte, à gauche, à droite. Il n'y a pas de l'eau. On fait le Taïmoum, Inch'Allah Ta'ala. On ne va pas marcher comme ça un kilomètre là pour chercher de l'eau. Il n'y a pas de distance. C'est pour ça que l'Albani Al-Ahmatullah a dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a dit que yani, on essaie de chercher sans qu'on se fatigue beaucoup et sans que le temps de la prière ne sorte. Wallahu ta'ala alam. Sonia Hanan a dit, ma question concerne la femme enceinte. Comment fait-elle quand elle accouche pour faire sa salat? Quand elle accouche. Entre-t-elle dans le cas de figure du malade? Comment fait-elle quand elle accouche pour faire sa salat? Quand elle accouche, elle ne fait pas la salat. Quand elle accouche, elle reste jusqu'au moment où elle se purifie pour faire la salat. Qu'est-ce qu'elle veut dire exactement? J'ai pas compris. Est-ce qu'elle veut dire avant qu'elle accouche ou quand elle accouche? Quand elle accouche, il n'y a pas de salat. Donc j'attends qu'elle reformule. Est-ce qu'elle veut dire avant qu'elle accouche? De toute façon, je réponds à sa place, car c'est sûr que c'est ce qu'elle veut dire. Parce que c'est impossible qu'elle veuille dire quand elle accouche. Donc une femme, avant d'accoucher, la femme fait la prière pendant le travail, quand il y a les contractions. Non, une femme doit faire la prière jusqu'au moment où le sang qui commence à couler ne s'arrête pas. Car des fois il coule un peu avant l'accouchement, il coule un peu la première semaine ou là, ça c'est rien. Elle l'essuie, elle lave l'endroit, elle fait la prière normalement. Mais quand le sang commence à couler de façon, il s'arrête plus. Il commence comme ça par éjaculation, il s'éjecte, il sort comme ça, il sort et il est lié. Maintenant là, ça fait 2 ou 3 jours qu'il ne s'arrête plus. Ça veut dire qu'il est lié à quoi? Il est lié au locher, à la nifes. Ici, elle doit s'arrêter et ne faire plus les prières. Mais auparavant, quand il coulait et s'arrêtait, elle devait faire la prière. Comment qu'elle fait? Quand c'est difficile pour elle debout, elle fait assise. Si c'est difficile debout, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait assise. Elle voit quelle est la meilleure position, comment qu'elle se trouve dans la meilleure position. Si c'est difficile debout, comment qu'elle fait? Elle fait assise. Si maintenant elle peut par exemple s'asseoir sur une chaise, ensuite, quand elle lit, elle peut par exemple être debout. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle lit debout, ensuite, puisqu'elle ne peut pas se prosterner ou là, elle ne peut pas s'incliner, ensuite, elle s'assit et elle termine assise. Et à chaque fois qu'elle va lire, elle se met debout. Ça c'est dans le cas où elle peut par exemple se mettre debout. Car dans la règle, il est dit, le maïsour, la yutrak bil maïsour. La chose qu'on peut faire, on ne la laisse pas à cause d'autre chose. Toi maintenant, tu peux faire quelque chose debout. Tu peux lire le fatiha debout, etc. Donc tu lis debout. Maintenant, je ne peux pas m'incliner, donc je m'assois. Il y a la chaise devant moi, je m'assois, je m'incline assis. Il y a seulement ma tête, et je me prosterne seulement avec ma tête, etc. Et à chaque fois quand je me lève, je termine debout. Ça, c'est pour la personne qui peut, Inch'Allah Ta'ala, faire debout. Il peut faire au moins la lecture debout. Wallahu ta'ala alam. Maintenant, qu'est-ce qu'il n'a pas parlé encore? Abdel Moussel, Moumin 84, je ne suis pas sûr. Moumin 84, Salam alaikum. Cher, quels sont les avis sur le fait de réciter la Fatiha après que l'imam l'ait récité à haute voix pendant la prière du Maghreb, Isha Subh? Quels sont les avis sur le fait de réciter la Fatiha après que l'imam l'ait récité à haute voix pendant les prières du Maghreb, Isha Subh? Bien sûr, cette question, comme vous devez le savoir, les ulama ont beaucoup divergé sur cette question. Beaucoup, beaucoup. par exemple Cheikh Ibn Othaymin, Ben Baz, Fawzan, tous, Allahu A'lam, les grands hadiths de l'Arabie Saoudite, tous ils disent Allahu A'lam que tu dois lire derrière l'imam, même s'il l'a lu à voix haute, tu dois lire. Naam. Et les autres comme Cheikh Islam Taymiyyah, Cheikh Al-Albani et ceux-là disent qu'on n'est pas obligé de lire. Moi j'ai pris de l'avis de Cheikh Islam, j'ai bien lu ce qu'il a dit, et j'ai pris de l'avis de Cheikh Al-Albani, je ne lis pas derrière l'imam qui lit, parce que j'ai lu leur adillah. Je suis convaincu par cela. Wallahu ta'ala a'lam. Naam. Naam, moi j'ai lu leur dalil, voilà, j'ai lu leur dalil, Ibn Taymiyyah a fait au moins 4 ou 5 pages pour cette mus'ala dans Mujmu' al-Fatawa, j'ai lu bien ce qu'a dit l'Albani, j'ai été convaincu, je ne lis pas derrière le imam, car comme a dit Cheikh l'Albani, il a dit une chose très simple, il a dit bon, on dit à celui qui lit, celui qui veut lire, hein, on lui a dit, à quel endroit on va lire, à quel endroit on va lire, on va lire quand l'imam lit, il est en train de lire, alors l'imam, pourquoi est-il en train de lire à haute voix? Hein, il est en train de lire à haute voix pour que je l'écoute ou là pour lui-même. Si c'est pour lui-même qu'il lise dans son cœur, il me laisse lire. Donc maintenant il la lit fort, donc c'est pour que j'écoute. Car Allah Azza wa Jalla a dit Faïda Kouré al-Qur'an, fastami'u lah. Ça, donc c'est obligé de l'écouter. Mais il reste un deuxième cas, il va me dire non, tu vas lire lorsqu'il s'arrête lui. Il dit Amin et il s'arrête et il laisse les gens lire. On lui dit pardon, ça c'est une bid'a. Une bid'a qu'il s'arrête, il laisse les gens lire. Le prophète Sassoum ne l'a jamais fait. Le prophète Sassoum, il disait Amin, il disait les gens derrière lui Amin, il s'arrêtait juste un peu de reprendre le souffle et il lisait. Donc montre-nous où est l'endroit où on va lire et il ne va pas trouver l'endroit. Wallahu ta'ala a'lam. La hawla wa la quwwata illa billah. Il est tard, et je dois m'arrêter, Inch'Allah ta'ala. Je m'excuse pour mes frères et mes soeurs. Ils peuvent m'envoyer dans mon courrier. Il y a situé là, tu écris la hof, tu écris l'adresse, toi ou Tamullah. Je vous rencontre, Inch'Allah, après demain, Inch'Allah, 22h, on se rencontre. Subhanakallah wa bihamdik, shahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.